Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Pauline Léniaud. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Oula, bah bien sûr, je vais essayer. Donc je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, je suis mariée, j'ai créé une boîte qui s'appelle Gemio, qui est une marque de joaillerie. Et donc certains ont peut-être vu un petit charreau se balader dans Paris notamment. On essaye maintenant d'aller envahir la province, mais on est encore beaucoup à Paris malheureusement. Je suis entrepreneur, j'adore ce que je fais et je fais du kitesurf, du ski. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Crème de la Crème et je suis surtout très contente d'être avec toi aujourd'hui.
Eh ben, je suis ravi également. Alors, beaucoup d'activités, tu l'as dit dans ta présentation. Donc, je crois pas avoir entendu, enfin, je la connais, hein, mais je suis pas sûr que t'aies cité Gemio. La marque que tu as cofondée.
Tu vois, je suis vraiment très mauvaise en pub parce que franchement, dans mon intro, je cite même pas ma marque.
Et quelle fierté, quel succès, ça date de quand, Gemio ?
Alors, on a créé la boîte, donc j'ai créé avec mon mari et mon beau-frère, donc le frère de mon mari, en 2011. Donc ça va avoir 7 ans là, quand même. Ça me rajeunit pas tout ça.
En 2011. Alors, ouais. Ton beau-frère et ton mari.
Ouais. Donc, c'est un peu familial. C'était pas prévu, hein. Franchement, on s'était pas dit qu'on allait créer une boîte ensemble. Mais c'est arrivé comme ça. Enfin, l'histoire, tu la connais peut-être. C'est que je me suis fiancée avec mon copain de l'époque. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de bijoux de famille, qu'on savait pas du tout où aller, que c'était compliqué. On s'est dit, tiens, on va aller rêver un peu. Donc, on a été voir toutes les grandes maisons, notamment Place Vendôme, juste pour aller voir un peu ce qui se faisait. Et on s'est rendu compte que l'expérience, en fait, elle était super intimidante, tout était ultra cher. C'était magnifique, évidemment, mais c'était pas du tout l'expérience telle qu'on aurait aimé la voir, c'est-à-dire un moment un peu complice, tu vois, où on allait juste découvrir un nouvel univers ensemble. Parce qu'on est un peu comme ça, on aime bien faire un peu des trucs ensemble, ce qui peut paraître normal pour un couple. Et donc quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, mais il y a peut-être une opportunité. On a été voir ce que faisaient les jouets de quartier. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait un vrai trou, si tu veux, dans le marché entre le très très haut de gamme et ensuite les grandes enseignes
style,
exactement, tu vois, l'histoire d'or, Tatior et tout, qui sont très bien et qui apportent un service aussi parce que ça apporte des bijoux pas chers. Mais après, nous, on s'était dit, sur un segment de qualité plus haut de gamme, fabrication française, etc., c'est tout de suite très très cher, ou autrement c'est super fragmenté, ça va être des joailliers de quartier, tu vois, mais tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, c'est un peu vieillissant. Et donc on s'est dit, il y a probablement une opportunité dans ce secteur. Honnêtement, on était un peu tarés parce que juste on connaissait rien à la joaillerie, on venait pas de ce secteur et on avait jamais bossé ensemble, en plus en étant un peu familial comme ça. Donc on a un peu mis tous les œufs dans le même panier, on a fait un grand mix et on s'est dit, est-ce que ça va marcher? Et on s'est beaucoup accroché pendant 7 ans, donc ça marche. Mais c'est vrai que
c'est une aventure
un peu fou.
De vous.
Quand j'y pense, c'est un peu fou.
Ouais, c'est vraiment dingue parce que, alors, tous les ingrédients sont dingues parce que vous venez pas du sérail. Le côté familial aussi un peu spécifique parce que, alors, ton mari un peu au milieu entre son frère et sa femme.
Ouais, alors je pense que pour lui c'est le plus dur, franchement. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi j'ai vachement de personnes qui me posent des questions. Je pense que ça titille beaucoup de monde.
Toi, pardon, aussi. Je veux dire, le ton mari tu le choisis, ton beau-frère tu le.
Alors c'est. Oui, c'est ton associé, je m'entends bien avec lui, mais. Ouais,
mais c'est sûr. Les réunions de famille doivent être assez fun, ouais.
Écoute,
à pas faire les boulots,
ou... c'est l'enfer. Difficilement. Bon, c'est un peu mis des règles, d'ailleurs assez tôt, parce que sinon c'était insupportable. Enfin, tu vois, tu prends le métro le matin, tu prends le bus, dès en fait que tu te réveilles, tu peux parler de boulot. Il y a un moment donné où en fait il faut dire stop, parce que sinon tu ne t'arrêtes jamais. Et donc même en plus, tes dîners deviennent des dîners de boulot, tes petits déjeuners deviennent des petits déjeuners de boulot. Enfin, tu t'arrêtes jamais. Et mais donc on a mis un peu des règles. Mais t'adores ça aussi, donc t'es content de le faire, tu vois.
Mais tu te mets des règles pour pas en parler, mais t'y penses ?
Non. Enfin, en fait, on essaye quand même de créer des activités ou des règles pour faire d'autres choses et que ça soit pas forcément lié uniquement au boulot. Donc, tu vois, on va faire des vacances. où on part pas évidemment avec des potes entrepreneurs, on essaye de faire des vacances avec des gens justement qui vont pas du tout nous parler de boulot. Quand on est en famille, de temps en temps, on essaye justement de demander à nos parents de pas nous demander comment ça s'est passé aujourd'hui au boulot et si ça marche, si ça marche pas et qu'est-ce qui se passe, parce que sinon en fait tu ne fais que ressasser ces choses-là. Donc on essaye de se créer des petites règles, mais c'est pas facile de respecter.
Et donc du coup, je te vois avec une alliance, une bague de fiançailles, une bague.
Alors je l'ai pas mise, tu vois, ma bague de fiançailles aujourd'hui, mais j'ai mon alliance Pénélope de chez Gémio, la bague Ariane Pavée, qui est un peu l'un de nos best-sellers.
D'accord.
Et je porte évidemment nos bijoux, bien évidemment. En fait,
mais ton alliance, t'as fini par l'acheter où alors ?
Bah, chez moi.
C'est vrai.
Je l'ai créé.
C'est vrai.
Bien sûr. C'est cool. Ça l'histoire. Bah du coup, j'ai mis un peu de temps. D'ailleurs, on a mis quasiment 2 ans à se marier, en réalité, parce que quand on a eu on devait se marier, on a eu cette idée. Franchement, on était complètement inconscients. On se rendait pas compte, si tu veux, que en fait, juste créer une marque de joaillerie. Enfin, les gens mettent 200 ans en fait.
T'as attendu d'avoir ta propre alliance pour te marier, donc ça t'a pris 2 ans.
Exactement. Donc ça m'a pris 2 ans concrètement. Mais je suis ravie parce que du coup, non seulement la bague maintenant est associée non seulement à l'amour, à notre histoire, etc., mais en plus à notre boîte et à tout ce qu'on a fait ensemble, et même notre couple a évolué depuis qu'on a créé la boîte ensemble, parce qu'on se connaît encore bien davantage. Donc je suis plutôt contente d'avoir attendu. La patience est la mère de toutes les vertus. mais fallait pas être pressée.
D'accord. Et du coup, vous avez fondé ça en 2011 directement. Ouais. Vous êtes mariés du coup en 2013.
Exactement.
Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passera quand vous aurez des enfants? Quelle idée vous allez avoir?
Écoute, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas le temps.
D'accord. Alors, on va faire un grand retour en arrière. Tu viens d'où, toi, Pauline?
Alors, je suis née à Paris. J'ai des parents qui sont des gens que j'admire beaucoup, qui sont très différents l'un de l'autre. Mon père est entrepreneur, en fait. C'est un homme, je l'ai pas trop raconté, mais qui est quelqu'un qui a pas du tout fait d'études. Il a quitté sa maison quand il avait 16 ans. Il a fait tous les métiers comme les entrepreneurs à l'époque. Il a vendu des bas, il a vendu des trousseaux. Enfin, tu vois vraiment l'entrepreneur en fait qui se crée lui-même, et il a fini par travailler dans l'immobilier.
D'accord.
Et en fait, a fini par faire sa carrière dans l'immobilier, a rencontré ma mère, est tombé très amoureux de ma mère, et ça fait 45 ans qu'ils sont mariés, et c'est un bel exemple pour moi. Et ma maman est quelqu'un de formidable, parce que c'est une immense créative.
D'accord.
Qui croit dur comme fer en ses idées, et qui a une source sincèrement d'énergie qui est juste hallucinante. Et donc en fait, le mix des deux m'a toujours beaucoup inspirée.
Ta mère bosse ou elle bossait ?
Elle a pas bossé pendant une période. Ensuite, elle était consultante en art contemporain.
D'accord.
Donc, comme elle avait beaucoup de goût et qu'elle a toujours été passionnée par l'art contemporain, en fait, elle avait fait des études à l'école du Louvre. Bah, du coup, elle conseillait un peu des hommes d'affaires, des personnes qui voulaient acheter des pièces d'art contemporain. Et ensuite, maintenant, elle s'est complètement reconvertie à l'âge de 40, 45 ans. Et maintenant, elle est architecte paysagiste. Donc, elle a repris ses études, son baluchon et tout. Et donc, quand je te disais, non seulement c'est une créative, mais c'est quelqu'un qui, je pense, n'a jamais peur, tu vois, de se remettre en cause et de recommencer. Enfin, vraiment, c'est une grande inspiration pour moi en termes de capacité de travail et de volonté. Mon père aussi, bien sûr, mais finalement, mon père, c'est plus quelqu'un qui juste a pas eu le choix et en fait, qui a bossé comme un fou toute sa vie depuis qu'il a 16 ans. Et je pense qu'il aime ça, mais ma mère, elle aime vraiment ça. Elle aime vraiment ça. Elle aime créer, quoi. Et ça m'a beaucoup marqué.
Et du coup, tu les suis un peu aujourd'hui, enfin à cette époque-là tu les regardes, et c'était une inspiration pour toi en termes de direction. Tu te disais, je veux aller dans l'art contemporain, je vais être entrepreneur en regardant ton père.
Ouais, alors franchement, je vais être honnête, je pense que je peux se rationaliser un petit peu aussi. Ouais. Et maintenant, je me rends compte, sur le coup, quand t'as 14 ans, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, t'es un peu paumé. Je pense que j'étais comme nous tous à cette époque. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je les admirais beaucoup. Après, c'est des personnalités très très fortes. Et donc, c'était pas facile aussi de trouver ma place. Ma sœur aussi a une personnalité forte, et j'étais un peu, j'ai eu souvent la sensation d'être un peu la cinquième roue du carrosse, parce que j'étais peut-être plus discrète, tu vois. Je suis quand même, j'ai peut-être pas l'air comme ça, mais d'un naturel relativement réservé en fait. Et du coup, c'était pas simple pour moi de m'imposer. Et je pense que j'ai aussi essayé de trouver ma voie, qui était une voie différente des leurs. Et donc, en fait, j'ai commencé par juste essayer d'exister, quoi, concrètement, comme beaucoup d'enfants.
Et aujourd'hui, t'es la plus exposée de la famille, quand même.
Tout à fait.
T'as pris ta revanche.
Ouais, enfin, bravo. Pas forcément ce que je voulais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je voulais prouver que j'étais capable de faire des choses toute seule et différente. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que du coup, moi, j'ai fait des études littéraires. Donc, mes parents, comme je t'ai dit, l'un comme l'autre, n'ont pas fait d'études. Mmh. Ma sœur a fait des études de commerce, mais tu vois, sans plus. Et je pensais que c'était pas forcément... Elle adorait pas ça et elle voulait travailler assez vite, tu vois. Mmh. Et moi, en fait, je me suis plongée notamment un peu par pression familiale, parce que justement, quand mes parents ont vu que ça commençait à marcher à l'école, ils se sont dit, bah tiens, trop bien, y en a une qui va pouvoir faire de grandes études. En plus, c'est rassurant parce que du coup, ça veut dire qu'elle va trouver un job facilement. Ça veut dire que ça va pouvoir être des jobs en plus qui sont pérennes, tu vois, où il n'y a pas vraiment de soucis derrière. Et donc, je me suis lancée dans les études littéraires et je suis rentrée à Normale Sup.
D'accord.
Donc, voilà.
Et du coup, tu baignais dans ce... j'ai récemment, dans un tout récent épisode, dialogué avec Romain Dessalles, qui est le patron de Time to Sign Up, qui me racontait un peu ce...
Ah ben, je l'écouterai bien, celui-là.
Vas-y, je te le recommande. Qui me raconte un peu ce côté rive gauche... Intello, Sciences Po, ENA, Normale Sup, etc., etc. Donc toi, t'as débarqué un peu là-dedans sans venir du Serail, c'est ça?
En fait, ce qui était particulier, si tu veux, c'est que je pense que j'étais, je suis pas politisée comme personne, mais clairement, quand on rentre dans ce genre d'école, souvent les gens sont politisés. Et justement, je pense que je faisais partie des rares personnes qui avait pas d'intérêt pour ça et qui était un peu un ovni, parce que moi j'aimais faire la fête pas tant que ça, mais j'estime que j'étais plutôt saine en fait dans ma tête et que j'aimais faire du sport, j'avais des amis, enfin, et en fait sincèrement quand tu débarques à Normale Sup, c'est pas pour faire des caricatures, mais je pense qu'il y a aussi un peu un côté tu t'essayes un peu de tout intellectualiser, t'essayes en permanence de montrer que t'es le prochain Sartre, tu vois, et du coup
de la mêlée.
Exactement, ouais. T'es censé être malheureux, tu te prends la tête sur tout, et en fait du coup malheureusement ça m'a un peu joué des tours, parce que je pense que je suis un peu tombée dedans aussi, mais en fait j'étais pas du tout comme ça, et quand je dis que je suis tombée dedans, c'est que je pense que je suis devenue un peu malheureuse, parce que j'étais pas du tout faite pour les études Normale Sup, et surtout pour les carrières qui mènent à Normale Sup, même si c'est une très bonne école et que j'ai appris plein de choses, mais ça nécessite en fait de devenir chercheur ou enseignant, et en fait c'était vraiment pas fait pour moi, mais je m'en suis rendu compte tard. Donc ça pour dire que oui, je venais pas forcément, en tout cas de ce milieu-là. Souvent c'est des personnes qui sont des intellectuels de gauche comme tu dis, qui sont fils de profs, d'instituteurs, souvent des anciens normaliens, il y en a énormément. Et moi honnêtement, c'était pas du tout le cas quoi. Donc c'était pas si simple comme période. Après je me suis fait des super amis quand même.
T'étais pas à l'écart quoi.
J'étais pas à l'écart. Enfin j'étais quand même un peu à l'écart.
J'étais pas en plein dedans.
Non.
En tout cas.
J'étais pas en plein dedans. Faut être clair. J'étais pas en plein dedans. Mais par contre j'ai trouvé mon compte, parce que j'ai trouvé quelques personnes que j'ai vraiment adorées. J'ai trouvé que les profs étaient formidables. Et puis surtout, j'ai quand même appris plein de choses au niveau du travail, notamment, tu vois. Enfin, mine de rien, pour rentrer à Normale Sup, j'ai bossé, mais comme une malade. Enfin, vraiment.
Là, on parle vraiment de serious business, parce que je crois que.
J'en ai perdu la santé, sincèrement.
C'est l'un des plus compliqués de France, je crois. C'est réputé.
Il y a 36 personnes qui rentrent par an, si tu veux, sur des milliers d'inscrits, donc c'est l'enfer. Et c'est pas que c'est les gens forcément les plus intelligents qui rentrent, parce que franchement, je connais plein de gens brillants qui sont pas rentrés, mais c'est juste qu'il faut comprendre ce qui t'est demandé. Et il faut savoir l'exécuter parfaitement. Donc, c'est vraiment, il y a un enjeu de travail, en fait, et de compréhension de ce qui t'est demandé.
C'est ce que décrivent souvent ce qu'on appelle, j'ai vu ce terme qui t'était attribué, mais les bêtes de concours, c'est dire, il faut comprendre plutôt comment le concours fonctionne.
Exactement.
Et toi, t'en as fait plusieurs concours.
Ouais, malheureusement. le mot bête de concours, malheureusement, correspond bien. Mais c'est terrible parce que quand j'y pense, quelle perte de temps. Enfin, perte de temps, non, tu vois, je regrette pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être très pas snob en disant ça. Mais en fait, je le faisais pour les mauvaises raisons. C'est que je le faisais. Tu sais, il y a quand même un prestige. Mes parents n'avaient pas fait d'études. Donc, en fait, j'étais tellement fière quand j'ai réussi à faire un concours. Et puis, même pour moi, j'avais l'impression d'exister. Et puis, je savais pas ce que je voulais faire. Donc il y a un côté un peu fuite en avant en plus, parce que du coup t'as une deadline, t'as un objectif, tu te poses pas de questions, tu sais même pas à quoi ça va servir, mais tu le fais parce qu'en fait on te dit que c'est bien. Et en fait j'étais vraiment typiquement là-dedans.
Mais il y a quand même Alors, je pense pas que t'aies de regrets non plus
d'avoir fait ça, mais je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de regrets.
Mais il y a quand même un truc qui est génial une fois que t'as coché cette case, c'est que mine de rien, à tort ou à raison, et probablement un peu à tort, mais aussi un peu à raison, quand t'as réussi ces concours, en plus t'es passé à prépa HEC, je crois, et il y a un moment où t'es mis dans une case
clairement.
Et où les portes s'ouvrent plus facilement.
Alors, je vais te raconter une histoire que je crois que j'ai jamais racontée, oui, c'est vrai, d'une certaine manière, mais du coup, c'est une case, donc ça t'enferme aussi. Et tu vois, moi, quand j'ai postulé pour mon premier job en start-up...
Tu me vois me marrer, pardon, mais parce que, excuse-moi, tu vas revenir là-dessus, mais j'ai récemment eu un champion olympique sur ce podcast, pardon, et Vincent Defrane, et qui me dit que le titre de champion olympique l'a enfermé quelque part. Il t'explique que quand il se présente à quelqu'un, il dit pas qu'il est champion olympique. Parce que sinon, on parle que de ça pendant une heure et demie.
Ouais, non, mais je comprends. Enfin, j'ai pas envie de faire pauvre petite fille qui a réussi les concours, tu vois. C'est pas du tout mon état d'esprit, mais quand même, je pense qu'il a, enfin, en tout cas, je le rejoins là-dessus et je sais, c'est un problème, entre guillemets, de riche, mais quand tu rentres dans cette case, donc, je rentre ensuite à HEC, donc, tu vois, double case. Et là, je me dis, non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est l'entrepreneuriat. Je pourrais te raconter comment je suis arrivée à ce cheminement, mais en gros, je me dis, c'est ce que je veux faire. Le truc, c'est que j'ai aucune expérience, j'y connais rien, j'ai jamais bossé dans une boîte de ma vie. Et je me dis, il faut quand même que j'ai une première expérience entrepreneuriale. Et donc, je postule dans plein de startups. Le fait que sur mon CV, il y ait marqué Normal Sup HEC, les gens se sont dit, prise de tête. Elle va pas du tout être opérationnelle. Elle va être dans des hautes sphères. Elle va vouloir faire de la stratégie. On a tous eu le stagiaire qui dit merci, je vais faire de la stratégie pour toi, tu vois. Et en fait, non, c'est pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, moi, j'étais plutôt là en me disant, je vais mettre les mains dans le cambouis. S'il faut que je sorte les poubelles, je sors les poubelles. Je veux juste apprendre réellement ce que c'est. Et donc, j'ai réussi finalement à convaincre. Mais je t'assure, sur le coup, en fait, pour ce type de job, c'était plutôt un désavantage parce que les gens se disaient, non, mais c'est pas du tout fait pour elle, quoi.
Il y a des biais après, mais qu'il faut être capable de surpasser. C'est-à-dire, moi, j'ai un associé à Londres qui est Louis Dumoulin, que je cite avec plaisir, qui est un Sciences Po et qui avait une tendance très littéraire au début sur beaucoup de choses, même dans la manière d'écrire les emails aux collaborateurs, aux clients. Mais comme c'est quelqu'un d'intelligent qui comprend vite, finalement, faut voir ce côté-là plutôt de la personne, c'est-à-dire il évolue, c'est quelqu'un qui écoute, on échange, il nous fait progresser, il progresse en même temps. Ça, c'est fantastique, mais c'est vrai que il y a ce côté un peu un Sciences Po, un énarque, un normalien. Mais je comprends.
Bon, après c'est un avantage aussi, hein, je vais pas le nier, mais.
Mais tu vois j'ai eu cette semaine un contact avec. Marc qui m'a contacté grâce à ce podcast Génération de Future Self qui est normalien.
D'accord.
Et qui me dit écoute on pourrait écrire un bouquin.
C'est marrant.
Et je veux dire quand tu vois normalien, t'as un tampon.
Oui,
tout
c'est
de suite
sûr.
Quand tu vois je l'ai appelé sans savoir tout ça, en l'appelant, je regarde son LinkedIn et je vois tout ça et je me dis oui, quelque part
il va pas faire de faute d'orthographe.
Crédibilité importante. Ouais, a priori voilà.
Encore que moi je suis pas très bon d'orthographe.
C'est vrai. Oui, mais attends, ça Romain Dessal m'a dit ça aussi, mais pas très forte, ça veut dire que tu fais une faute.
Non, je suis pas excellente. J'ai dû tu vois, typiquement ça fait partie des trucs où quand j'ai compris que pour rentrer à Normalsup, il fallait faire strictement aucune faute, j'ai dû prendre un Becherel et faire gaffe, quoi, parce que moi j'étais pas très bonne en orthographe et j'ai dû bosser pour ça. C'est bête, mais tu vois, comme quoi il n'y a pas que des gens qui sont absolument brillants qui rentrent à Normalsup.
Et ça te donne quoi tout ça aujourd'hui au quotidien? Tu bosses mieux? Je veux dire, est-ce que le fait d'avoir bossé beaucoup, ça t'a appris à être plus efficace sur une heure de travail par exemple?
Alors, je dirais que déjà ça m'a appris à apprendre. Ce qui est t'es censé ingurgiter un nombre d'informations qui est juste colossal, d'autant plus que le concours que j'ai passé, moi c'est un concours où chaque année le programme change, et donc ça veut dire que tu repars de zéro, t'es censé t'es censé tout apprendre, si tu veux, sur un domaine très précis. Donc j'ai appris ça, j'ai appris à m'organiser pour apprendre, parce qu'en fait, c'est pas en relisant 15 fois un texte que tu l'apprends par cœur, tu vois. Et donc je me suis créé des méthodes, enfin de fichage, de temps aussi que j'affectais à différentes tâches, d'organisation, donc créer des plannings. Enfin vraiment, en fait, si tu veux, comme t'es laissé un peu seul finalement, et surtout les études littéraires, t'es très très peu encadré.
Mais ces méthodes, tu les as laissées derrière maintenant? Ou tu les...
J'ai pas forcément besoin, tu vois, de ficher des bouquins ou ce genre de choses, mais en fait, je pense que ça reste quand même dans un coin de ma tête comme des méthodologies, tu vois, d'efficacité, d'organisation du travail. Donc ça, c'est sûr que je l'utilise encore un petit peu. Il y a autre chose aussi que je pense que j'utilise pas mal, c'est toujours me poser la question de quand je parle ou quand, enfin pas quand je parle là, tu vois, avec toi, mais par exemple quand j'écris un communiqué de presse, quand je prépare une réunion, toujours me poser la question de à qui je m'adresse, quel message que je veux faire passer, quels sont les objectifs. Ça, c'est ce que je te disais sur le concours. En fait, j'ai compris en fait à qui, enfin, ce que je devais dire et quel était le contenu que je devais donner. Un peu de la même manière, quand je fais une tâche, j'essaye de pas me jeter dedans tout de suite sans avoir pris un minimum de recul et de m'être posé des questions, en fait, un peu who, when, why, pour le faire bien, quoi.
Ce qui est vraiment la base, hein, dans toute ta typologie de métier, mais que ce soit dans la manière dont tu parles, alors toi, en public, mais sur tes affiches, tes publicités, des magasins, des vendeurs, savoir à qui tu t'adresses. Souvent, on a une tendance à comment tu t'adresses, qu'est-ce que tu leur dis, quel est ton message, quel est le positionnement que tu as. Mais du coup, tu as vu tout ça, toi, après HEC, tu as fait un cycle de 2 ans, du coup.
Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé...
J'ai un nombre d'HEC sur ce podcast, et je ne fais pas exprès.
Je suis désolée pour toi, en plus, tu sais ce qu'on dit des HEC.
Qu'est-ce qu'on dit des HEC?
Voilà, je ne le dirai pas pour que ton podcast reste politiquement correct, mais...
Non, mais c'est surprenant parce que je veux surtout pas être élitiste
une école qui... je sais que t'invites beaucoup d'entrepreneurs aussi, donc c'est quand même une école qui a été l'une des premières à pousser énormément l'entrepreneuriat. Enfin, le motto d'HEC, c'est apprendre à oser. Moi, en plus, j'ai fait la majeure HEC entrepreneur. J'imagine que t'as interviewé pas mal de personnes qui ont fait cette majeure. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est l'un des endroits en France... je dirais les plus réputés, tu vois, pour... alors, je sais pas si on peut apprendre à être entrepreneur, mais en tout cas, pour te former, te donner quelques clés.
Un peu.
Et donc, moi, j'ai fait normal sup. J'étais malheureuse comme les pierres. Je comprends que je veux pas devenir enseignante ou chercheuse parce que m'enfermer dans une bibliothèque pendant 10 heures par jour, pendant 12 ans, c'est pas ce que je veux faire. Et sincèrement, il faut saluer, en fait, les gens qui le font parce que c'est une vraie, vraie vocation et c'est très, très difficile. Moi, j'ai plein d'amis qui sont devenus profs et honnêtement, je les admire beaucoup, beaucoup pour ça. Donc, je sais que c'est pas fait pour moi et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc, comme t'as compris, j'étais un peu dans une phase où je suivais notamment les conseils de mes parents qui me disaient, fais des études, c'est bien, c'est sécurité de l'emploi, etc. Parce qu'en plus, Normalsup, t'es fonctionnaire, hein, quand même. Et donc je me dis je dois des années à l'État, je vais continuer dans cette voie et donc je tente l'ENA. Donc tu vois, après le succès incroyable pour mon père d'être entré à Normalsup, il se dit mais la gloire ultime pour lui qui a à peine son bac, tu vois, c'est que sa fille fasse l'ENA et donc je passe le concours, je suis admissible et en gros je me suis fait pas mal rouster le jour du grand oral qui est un événement assez incroyable quand on y pense. C'est en gros t'as 6 personnes devant toi et tu fais un entretien de personnalité pendant 45 minutes où les gens te demandent un peu pourquoi tu veux rentrer à l'ENA. Et c'est pas des questions techniques, tu vois, c'est vraiment quel bouquin t'as aimé, quel est le dernier film que t'as vu. Enfin, ils essayent d'apprendre à te connaître. Et ce qui est très très drôle, c'est que sur le coup, j'ai eu l'impression réellement que ça s'était bien passé. Et en fait, parce qu'en plus, c'est public, c'est-à-dire que t'as 30 personnes derrière toi qui t'écoutent et qui prennent des notes, etc. Donc c'est quand même, ça te met un petit peu la pression. Et donc je sors de là, tout le monde me dit trop bien, ils ont été hyper sympas avec toi, vraiment ça s'est bien passé et tout. Et en fait, évidemment, les résultats tombent et je me suis fait massacrer. Et ce qui est drôle, c'est que sur le coup, bien évidemment, ça a été terrible parce que ça faisait quand même 2 ans que je bossais là-dessus, que j'ai l'impression en fait que mes études à Normalsup plus ces années de préparation à l'ENA, en fait, sont des années perdues. Qu'en fait, j'ai une note qui est tellement mauvaise, donc un 2 sur 20, que en gros, ça veut dire que c'est rédhibitoire. Enfin, tu vois, que vraiment, ils veulent pas de moi. Et donc, je me dis, mais sincèrement, ça fait 7 ans que je gâche ma vie. J'ai perdu ces 7 années de ma vie.
C'est ton premier échec.
C'est mon premier gros échec, ouais. C'est mon premier échec et c'est vrai que je pense que c'est hyper important d'en vivre parce que ça met quand même un énorme coup et donc ça a été une période de dépression, quoi, concrètement, où en plus mon copain à l'époque, qui est maintenant mon mari, était aux États-Unis. Donc j'étais un peu seule, je me suis complètement enfermée sur moi-même, enfin ça a été une période de gros doutes, mais bah comme souvent les échecs, mine de rien, au bout d'un moment t'es un peu obligé de rebondir et surtout t'es obligé un petit peu de réfléchir et moi ça m'a forcé vraiment à faire un travail d'introspection que je n'avais pas fait depuis que j'étais née, où je te dis, moi j'étais vraiment typiquement la petite fille sage qui suivait en fait ce que ses parents lui disaient de faire et qui y arrivait plutôt bien, donc tout le monde était content et on se posait pas trop de questions. Et en fait là, bah premier gros échec, donc en fait je me pose des questions et je me dis mais en fait, est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? Et je me suis rendu compte que non. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'animait, c'était le risque, l'aventure, l'entrepreneuriat. Quand je regardais mes copains dans Malsup, mais c'était l'inverse de moi.
Ta première rébellion, en fait, c'était de dire à tes parents, je vais à HEC. Quoi.
Exactement. J'ai fait une crise d'adolescence très tardive, tu vois.
J'aimerais bien que mes enfants se rebellent en me disant, je vais à HEC. C'est peut-être pas...
j'avoue que j'ai un peu honte de cette histoire parce que franchement, mais ça fait vraiment la fille quand même.
Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'en recontextualisant tout ça et chose donc de alors il se trouve que Romain s'est fait de salle donc dont je parlais tout à l'heure s'est fait ramasser aussi big time ouais. Je crois au grand oral et c'était dur pour lui aussi je crois, mais j'imagine peut-être à tort mais que quand tu passes de normal à HEC c'est quand même un peu je sais pas, enfin, c'est alors, pas c'est le cas niveau, que... j'exagère un
non,
peu.
Non, mais c'est ce que tout le monde pense. Je vais te dire un truc. Moi, je dirais pas que j'ai jamais autant appris qu'à HEC, mais j'ai adoré mes années à HEC.
Je dis pas que t'as pas adoré après, évidemment, t'es devenu entrepreneur, etc. J'ai un peu l'impression que c'est de salir les mains quand même, tu vois.
Eh bah, ben, écoute, alors, je fais pas de pub pour HEC, j'ai pas de lien avec quoi que ce soit, mais HEC ou n'importe quelle autre école de commerce, moi, si tu veux, Normalsup, j'ai appris énormément en y allant. Une fois que j'y étais, j'ai rencontré des gens brillants. Ok, mais en fait, au final, tout ce que j'avais à apprendre, je l'avais déjà appris en prépa. J'ai pas appris beaucoup plus que ça une fois que j'y étais. En revanche, HEC, quand j'ai débarqué là, mais vraiment, ça a été un monde qui s'est ouvert à moi parce que j'ai appris la comptabilité, ce que c'était qu'un bilan. J'ai appris, le lean management. J'ai appris le recrutement. Alors, évidemment, c'est pas la même chose que quand tu l'apprends dans la vraie vie et que t'es dans une boîte. Mais ça m'a quand même vraiment, vraiment ouvert les yeux sur le monde. Enfin, sincèrement, pour la première fois de ma vie, je lisais les journaux et je comprenais à peu près ce qu'on me racontait.
En fait, ce que tu me dis, c'est que il faudra envoyer ceux qui font une prépa HEC à Normalsup et ceux qui font une prépa littéraire à HEC parce que tous ceux qui finissent HEC qui sont passés par ce podcast me disent j'ai tout appris en prépa et HEC c'était un peu les pires
mais
des
montagnes. Mais parce qu'en fait c'est en fait les gens sont déçus parce que les expectations sont high. En fait quand t'arrives à HEC c'est l'aboutissement, ça fait 2 ans que tu travailles comme un taré et tu te dis mais en fait ça va être incroyable. Moi, si tu veux, j'avais fait Normalsup etc, je m'attendais à rien, tout le monde m'avait dit en tout cas HEC on n'apprend rien, c'est pourri. Et quand je suis arrivée là-bas, ça a été l'inverse. Parce qu'en plus, quand je suis arrivée, moi, je voulais déjà créer une boîte. Je savais pas quoi. Et donc, je suis arrivée, j'avais 26 ans, quelque chose comme ça. J'étais quand même plus mature que la plupart des personnes qui sont là juste pour se bourrer la gueule et aller aux soirées. J'étais la cougar, clairement. Et du coup, je suis arrivée en sachant que je voulais vraiment apprendre et je me suis donné les moyens de le faire. Et donc, j'ai vraiment, sincèrement appris et j'ai rencontré des personnes formidables.
Et par rapport, alors, si on revient au début cet épisode, par rapport à 2011, le début d'HEC, c'était quelle année?
C'était
pas en parallèle.
2009 même. 2009.
D'accord, donc t'as enchaîné HEC et le début de Gemio.
Tout à fait.
D'accord. Et en parallèle, t'es passé conseil d'État ou...
Alors, oui, mais ça, c'était pendant l'année où j'ai préparé le concours pour l'ENA. En fait, j'ai fait un stage pendant 9 mois au conseil d'État. Et tu vois, où c'est des gens brillantissimes. Sincèrement, je crois que j'ai rarement rencontré des gens aussi brillants. Parce qu'en plus, le conseil d'État, pour y rentrer, il faut vraiment sortir à la tête de l'ENA. Mm-hmm. Donc honnêtement, des personnes avec une puissance intellectuelle très, très surprenante. Mais en revanche... tellement vieillissant à l'intérieur, tellement des processus, mais d'un autre âge, sincèrement, que je me rends compte maintenant que j'étais vraiment pas du tout à ma place. Aucune place à l'innovation, aucune place si tu veux à l'initiative, tout simplement. Et même la carrière, en fait, elle est vraiment liée, si tu veux, à juste aux années qui passent. Donc, ça me convenait pas vraiment, mais bon, des gens brillants.
Donc on retourne à la place Vendôme où tu fais tes visites de boutique et il y a pas un moment où tu t'es dit bon tiens je vais acheter celle-là ou vraiment
j'aurais bien aimé. non bah en fait ce qui est fou mais je pense que ça doit arriver à plusieurs entrepreneurs. Moi ça faisait quand même plus d'un an que je cherchais à créer une boîte et que j'avais pas d'idée, j'étais intéressée par plein de trucs.
Tu étais dans ce mode.
Clairement.
Tu cherchais pas de boulot, tu bossais ? Non.
Non, j'étais donc je terminais mes études à HEC en fait. D'accord. Je fais un stage pendant je fais ma première année à HEC, je fais un stage dans une start-up pendant un an et ensuite je fais la majeure entrepreneur ou où donc on apprend un peu à être entrepreneur. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais créer comme boîte? Je ne sais pas, j'ai pas d'idée particulière, tu vois. Mais j'étais intéressée par le food, par la tech, enfin par plein de trucs, mais bon, sans idée précise. Et comme souvent, en fait, ça tombe un peu dessus par hasard. Donc quand mon copain de l'époque me demande de l'épouser, comme je t'ai raconté, on va faire le tour des joailleries. Et en fait, à ce moment-là, si tu veux, je pense qu'il y a vraiment un moment où tu vois une opportunité. Et juste, elle te saisit un peu aux tripes. Et là, c'était le cas, quoi. C'était vraiment... en fait, la joaillerie online, ça n'existe pas vraiment. Ça existe aux États-Unis. Il y avait notamment une entreprise qui s'appelle Blue Nile, bon, qui est particulière parce que ça vend exclusivement du diamant. C'est pas du tout une marque. Enfin, c'est un peu différent. C'est plus un distributeur. Mais très intéressant, une boîte qui fait énormément de chiffre d'affaires. On voit ça et on se dit, mais par contre, il y a pas, en fait, en France, il y a pas en Europe de marque, et même dans le monde, de marque aujourd'hui qui s'adresse à des personnes plus jeunes, qui veulent de la qualité, qui veulent des produits à un bon rapport qualité-prix et qui veulent quelque chose juste de plus jeune, plus frais, plus sympa comme expérience. Et donc, juste, ça nous a un peu pris au trip et je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait. En se disant quand même qu'on allait se mettre quelques petits garde-fous parce que déjà on travaillait ensemble et que c'était pas forcément gagné en tant que mari et femme, enfin de futur mari et femme. Et aussi en se disant, bah, ça se trouve, là, l'idée est pas bonne, j'en sais rien. Et donc en fait, on s'est dit, on va se fixer une deadline de 3 mois. Ou un peu en mode lean startup, on va y aller en mode très très bootstrap, et on va essayer de sortir de terre en fait un site internet, et c'était vraiment notre premier milestone, essayer de créer un site internet qui vende des premiers bijoux. Et donc c'est ce qu'on a fait, et donc on s'est réparti les rôles très rapidement entre donc Sharif, mon mari, et Malek, son frère, qui en fait était à cette époque entre deux boulots et nous a dit, bah si vous voulez, je vous aide, je sais pas si je resterai, mais je vous aide. Et donc en fait cet été 2011, c'est l'été où on a tout inventé, quoi, et où on a en 3 mois trouvé des fabricants, trouvé les pierres, créé les premiers designs, créé le site internet, créé juste un peu la plateforme de marque. Donc ça a été une période très très riche.
Donc vous créez la marque, ça s'appelle déjà Gemio.
Ça s'appelle déjà Gemio. Bon, le nom, on a mis un peu de temps à le trouver, mais ouais. Ça a été en fait assez naturellement, on a pensé à Gemologie, donc voilà, on s'est dit Gemio. Je te cache pas qu'on n'a pas non plus tergiversé pendant 1000 ans, parce qu'on s'est dit, si on veut créer notre site internet en 3 mois, il y a un moment, faut acheter un peu ton site.
Mais en parallèle, tu parles de site internet, mais il faut les produits pour
tout à fait,
enfin à vendre dessus. Exactement. Donc tu dois les faire.
Exactement. Alors ça a été une partie un peu dure. Donc en gros, on s'est réparti les rôles. Mon mari et mon beau-frère qui sont... Je déteste le mot beau-frère, que je trouve...
Sharif et Malek.
Voilà, on va dire Sharif et Malek. Étaient plutôt sur la partie tech, donc en gros la création du site internet, si tu veux. Et moi, en gros, j'ai justement géré plus la partie design et fournisseur, une création de contenu, et donc essayer de trouver concrètement des mecs qui allaient fabriquer nos bijoux, parce que l'idée de base, c'était comme on n'avait pas d'argent, et donc ça a vraiment été une contrainte qui est à la source de notre business model. C'est comme on n'avait pas de sous, on pouvait
acheter
pas
de l'or, faut acheter, enfin,
exactement, la joaillerie, ça coûte quand même très cher de base. Normalement, ce qui se passe, c'est qu'un joaillier il va créer 10 000 pièces ou 5 000 pièces ou 10 pièces, à ouvrir une boutique. Donc déjà tout ça, c'est des coûts, si tu veux, qui sont très élevés. On n'avait pas les moyens de faire ça, et donc l'idée de base, c'était de se dire, on va designer des bijoux et les clients vont pouvoir les acheter sur notre site, et uniquement après on va lancer la fabrication. Donc c'est une fabrication sur mesure, et ça reste notre business model aujourd'hui, et qui est la grande innovation de Gemio, parce que c'est le contraire en fait de ce qui se passe traditionnellement en joaillerie, et c'est ce qui nous permet de proposer un excellent rapport qualité-prix, parce qu'on n'a pas les mêmes coûts, si tu veux.
En plus tendu.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
On n'a pas de stock ou très peu.
Et donc ça, c'est vraiment une fois de plus, je trouve ça intéressant de se dire que de la contrainte naît aussi la création, on le dit souvent, mais là en l'occurrence, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, et aussi parce qu'on venait pas du sérail, tu vois, et donc on n'a pas pensé les choses comme un joaillier traditionnel le ferait.
C'est bien, au moins tu peux pas te faire braquer, quoi.
Tout à fait. Je peux te dire que maintenant on en est assez content, parce que justement on communique beaucoup sur le fait qu'on n'a pas de stock. mais voilà. Et donc on s'est réparti les rôles, et moi je gérais la partie trouver les fournisseurs. Et c'était très très dur, parce que...
Et si je reviens un tout petit peu avant, donc tu visites tout ça avec ton futur mari, vous en parlez, lui en parle à son frère, enfin, comment ça se crée tout ça, c'est quoi le...
En fait, ça s'est fait, Sharif et moi, on avait tous les deux envie de créer une boîte, on n'avait jamais envisagé de travailler ensemble, mais on commence à se dire, tiens, c'est marrant, il y a un truc sur la joaillerie, puis c'est une période quand même, t'es amoureux, tu vas te marier, enfin, t'es content, et on cherchait tous les deux vraiment une idée, et on, je sais pas, naturellement, en discutant de fur et à mesure, en se rendant compte que l'idée tenait, mais en peut-être une semaine, on en parlait tellement souvent, qu'on s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose, et donc c'est pour ça qu'on s'est créé cette deadline très serrée de 3 mois, en se disant, probablement que ça va se planter et que 3 mois plus tard, on n'arrivera pas à travailler ensemble, en tout cas parce qu'on va se détester et qu'on n'a pas envie de collaborer. Probablement qu'en fait, c'est très compliqué, qu'on va jamais trouver d'atelier, on va même pas réussir à faire de design. Et donc, on s'est dit, on va fixer ces deadlines, ces milestones très, très serrés pour essayer, avancer. Probablement que dans un, voilà, 3 mois, 6 mois, 1 an, en tout cas, ça sera planté, ça n'existera plus, mais ça sera notre premier, on va dire, notre première expérience entrepreneuriale. Et donc, on s'est lancé, mais vraiment très, très vite, parce que je te dis, je me rappelle pas de la date exacte à laquelle on a fait notre tour Place Vendôme, mais je pense que peut-être 2 semaines plus tard, c'était acté, et on a commencé à bosser, quoi.
Et comment Malek est rentré dans la boucle, du coup?
Il est rentré dans la boucle parce qu'il habitait chez ses parents à ce moment-là, parce qu'il venait de terminer ses études et qu'il attendait son job qui commençait en septembre, et là c'était je te parle du mois de juin, et donc en fait on le voyait régulièrement parce qu'on allait chez les parents de Sharif régulièrement, tu vois, pour dîner, etc. Et donc en fait en discutant avec lui, il nous dit c'est un énorme bosseur, c'est l'une des personnes les plus brillantes que je connaisse, honnêtement. Je parlais des gens brillants au Conseil d'État, je peux te dire que je pense que il en a une belle, et à mon avis
donc pourrait... ça te manque pas aujourd'hui,
j'en ai à la maison. Et donc ce qui est marrant, c'est que bah voilà, juste lui en fait il avait envie de s'occuper, quoi, et de nous aider, et donc il s'est mis, et il est tombé dedans. Et ce qui est rigolo pour la petite anecdote, c'est que donc il commençait quand même un job à la Société Générale, à l'inspection générale de la Société Générale en septembre, donc un beau job. Et en fait il commence à travailler, il nous aidait toujours le soir chez Gémio, et au bout d'un moment en fait il décide de lâcher, et le dernier jour de sa période d'essai à la Société Générale, il pose sa démission, et donc il quitte la Société Générale alors qu'on n'avait rien, on n'avait pas levé de fonds, on avait juste un pauvre site internet où on devait faire 300 euros de chiffre d'affaires par mois. Enfin tu vois, c'était hyper hyper risqué, et il a pris la décision de le faire sans filet. Je trouve ça assez remarquable.
Oui, c'est sûr que mais bon, vous avez aussi tous les trois, j'ai l'impression, fait ce choix qui était compliqué. Je veux dire, alors pour plein de raisons, au-delà du fait d'être futur mari, femme, beau-frère, etc. Par rapport à vos études et à un certain nombre de choses, se lancer déjà à deux en même temps.
Ouais,
Je sais ce que c'est que de me lancer tout seul avec une femme qui bosse, et il y a des efforts à faire en couple, c'est-à-dire que quand les deux bossent, j'imagine que les premières années, c'est quand même un peu vache maigre.
Ah bah, c'était pas fast, hein, c'était crostibat matin, midi et soir. je raconte souvent ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire que littéralement, on achetait des poissons surgelés crostibat pour ne pas faire leur pub, parce que c'est le truc qui te prend le moins de temps possible, ou des steaks surgelés, tu vois, et hop.
Un peu de légumes, j'espère.
Un peu de légumes, pas beaucoup. Je pense qu'à la fin, voilà, notre santé, en fait, et nos artères n'étaient pas en très grande forme. Mais bon, enfin, tu sais, tu l'as vécu certainement, quand t'as la foi et juste que t'as la motivation, tu t'en fous un petit peu. Et honnêtement, on bossait matin, midi et soir, on bossait de chez moi et de chez Sharif. Et franchement, on était heureux de se lever le matin et d'y aller, parce qu'on créait des choses nouvelles.
Il faut le dire, hein, ça, je veux dire, on voit souvent le côté glamour des choses, mais ces premières années,
on s'est pas payé, je crois, pendant je dirais pas un an, mais pendant 9 mois.
Oui, puis après, quand tu te payes, c'est pas 10 000 euros par mois.
Ah non, et puis même les 3-4 premières années, c'était très 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 light. Hein.
Tout est très light, tout est très tendu, et voilà, c'est un sacerdoce. Enfin, je veux dire,
vraiment.
Il faut
à deux, en effet, c'était particulièrement le cas. Ouais.
C'est ça, parce que souvent, derrière un entrepreneur ou une entrepreneuse, t'as un conjoint qui soutient un peu ou qui tient la baraque, quoi. D'accord. Et vous l'aviez perçu avant?
Je pense qu'on s'en doutait, mais on s'était pas tellement posé la question. On avait une immense chance, et je tiens à le dire, parce que du coup ça a beaucoup joué, hein, c'est sûr. C'est qu'en fait mes parents nous ont laissé un appartement dans lequel on payait pas de loyer, parce qu'ils habitent maintenant à Chinon, enfin près de Chinon en province. Et du coup, si tu veux, ça a été, enfin, ne pas payer le loyer, en fait, ça fait une énorme différence, parce que même si tu gagnes pas d'argent, bah voilà, tu peux juste alimenter, manger des pâtes matin, midi et soir, et ça passe. Ouais. Dès que un loyer, c'est très très compliqué. D'ailleurs, j'ai entendu, je me rappelle pas quel entrepreneur me disait, enfin il y en a beaucoup qui rentrent habiter chez leurs parents, et on l'a envisagé à un moment donné, parce que tu vois, c'est vrai que c'est difficile de joindre les deux bouts. Nous, en plus, enfin moi j'avais jamais été payée vraiment avant, enfin.
Rachel Delacroix, je t'en parlais tout à l'heure, avant, elle est repartie, elle habitait à la Défense, enfin elle bossait à la Défense, son mari ou futur mari à Montrouge, ils sont partis vivre à Montpellier chez les parents de son mari ou futur mari pendant 1 an et demi ou 2 ans pour préparer le lancement de BIM. Hein. Donc c'est... Non,
ah, mais, c'est mais d'un autre côté, moi, je suis... Enfin, bon, j'ai un discours un peu dur là-dessus, mais tu vois, je me rends compte que c'est aussi parce que toujours pareil, cette idée de la contrainte crée quelque chose de positif. C'est comme on savait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et que ça n'allait pas pouvoir durer éternellement, on a été obligé de se dépasser et d'aller vite.
Ouais, t'as pas le choix.
Obligé d'aller vite. Ouais. Et moi, l'histoire de mon père qui a 16 ans est parti de chez lui, qui n'avait pas de quoi manger, si tu veux, et qui devait remplir son frigo, bah en fait, il a été obligé de se dépasser. Et nous, bah on a créé la boîte honnêtement en 3 mois parce que on savait qu'on n'allait pas pouvoir prendre 2 ans, comme souvent c'est le cas maintenant, quand tu veux créer ta boîte, parce qu'on n'avait juste pas le choix. Et donc et suite à ça, d'ailleurs, on a levé des fonds assez rapidement. Parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir ne pas se payer pendant 2 ans.
Et alors, avant de revenir sur cette levée de fonds, on est en septembre 2011. Donc, après ces 3 mois, vous avez lancé le site internet.
Exactement.
Et tu te souviens de ta première pièce vendue ?
Ouais, carrément. Bah, c'est un souvenir génial. Enfin, je pense que tout entrepreneur se rappelle de sa première vente, quoi. Nous, en plus, c'était quand même un pari. Vendre des bijoux chers à plusieurs centaines d'euros sur internet, sans boutique, alors qu'on n'était pas joaillier. Des bijoux qui, en plus, n'existent pas.
Je reviens sur le cher. C'est un bon rapport qualité-prix.
Non, mais après, je te remercie. C'est sympa. Je suis vraiment très mauvaise, tu vois, encore. Non, mais bon, cher au sens... tu vois,
français
allez.
Haut de gamme un
non mais je, oui, cher non, mais je au sens personne à l'époque en 2011 n'achetait des choses à part des billets de train, des billets d'avion, personne n'achetait des choses à plus de 100-200 euros sur internet, oui. Si tu veux, là
sur une marque que tu connais pas
en plus, même dans l'absolu, dépenser plus de 100 euros sur internet, ça n'existait pas. T'achetais je sais pas ce que t'achetais, des bouquins sur Amazon, mais c'est tout. Et donc nous, enfin, c'était des sommes pas énormes, mais c'était 300-400 euros, ça reste de la joaillerie. Et donc, en fait, je me rappelle en effet de cette première personne. Surtout que nous, notre objectif, c'était la première personne qu'on ne connaît pas. Parce qu'on a eu une première cliente qui était
la
hyper sympa, exactement, qui veut un peu te faire plaisir. Même si quand il s'agit de 300-400 euros, en général, ils veulent te faire plaisir, mais il faut quand même vraiment qu'ils aient envie. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est une personne qui habite à Angers, apparemment, qui a acheté une bague en topaz, je me rappelle, or rose et topaz. Et je pense qu'en fait, elle nous a expliqué après ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été sur Google et qu'elle a tapé bague or rose topaz. Comme on est l'une des seules marques à proposer plein de choix de pierres et de métaux, en fait, on était les seuls concrètement à proposer cette combinaison de pierres et de métal. Et donc, je pense qu'au bout de la 18e page de Google, elle a dû tomber sur notre site qui venait d'arriver. Et donc, elle a fini par passer commande.
La magie du référencement.
C'est la magie, voilà, de la longue traîne.
Ouais, c'est ça.
Et donc, ce qui est marrant, c'est que je me rappelle que le site était tellement horrible à l'époque que même moi, j'aurais pas passé commande. Enfin, franchement, c'était...
Je reviens sur ce concept de longue traîne, c'est important. Pour ceux qui connaissent un peu, petit détail
technique,
quand tu dis donc que... vous êtes capable de faire des alliages ou des combinaisons entre certains métaux et certaines pierres que beaucoup d'autres font pas. Si tu les mets bien sur plein de pages aujourd'hui, quand des gens font des recherches spécifiques sur des centaines voire des milliers de pages, ils peuvent tomber sur Gemio et du coup vous trouvez sur des c'est l'avantage d'avoir du sur-mesure. Parce que en effet, tu peux faire un nombre de combinaisons illimité.
Bah, c'est un peu la force du spécifique versus le générique, c'est-à-dire que être premier sur le mot, par exemple, que je connais la joaillerie, donc par exemple bague de fiançailles ou bijoux sur Google, c'est assez difficile. Il faut y être depuis très très longtemps, il faut être extrêmement pertinent. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Bijoux, ça peut être autant des bijoux à 5 euros qu'à 2000 euros. En revanche, bague or rose et topaz, c'est très spécifique. Ouais. Et donc les personnes qui cherchent ça, bah déjà, sont très pertinents, a priori, pour toi. Et en plus, bah du coup, si toi, t'as cette page, Google va te remonter assez rapidement, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a cette page. Donc, c'est vrai que très tôt, en fait, essayer d'avoir des petites niches comme ça, et surtout de travailler le référencement naturel, qui est souvent lié aussi au temps qui passe et qui s'améliore avec le temps, c'est un petit conseil que je peux donner à des gens qui se lancent. Alors, malheureusement, ça prend du temps, et donc les résultats ne sont pas directs. Mais en revanche, que je disais tout à l'heure, la patience est mère de toutes les vertus. Clairement, sur le référencement naturel, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut s'y attaquer tôt et il ne faut jamais s'arrêter.
Exactement. Donc, cette personne en G, tu n'es pas allé lui apporter toi-même en train
Franchement, pas loin. Non, mais pour la petite histoire, ce qui est rigolo, et ça, nous, on a été beaucoup inspirés par un bouquin que je recommande, d'ailleurs, qui s'appelle Lean Startup, que tu connais très certainement. Ouais. Et qui est un livre, en gros, qui t'explique, quand t'es pas entrepreneur, comment créer un peu ta boîte dans les premières étapes sur un concept de bootstrapping et d'essayer de faire du test and learn très rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est fixé ces premières deadlines très, très rapides de créer le site internet, même s'il était pas parfait.
Donc, Lean Startup, c'est L-E-A-N Startup.
Exactement. Et donc c'est ce qu'on a fait. Le site était loin d'être parfait. D'ailleurs, on avait uniquement à l'époque un module de virement bancaire. On n'avait même pas de TPE bancaire parce que en fait on n'avait pas les moyens de l'avoir et que on s'était dit que c'était du superflu. Donc en fait l'idée c'était vraiment d'aller à la substantifique moelle de comment est-ce que quelqu'un peut passer commande. En fait il faut soit PayPal, soit le virement bancaire. Il faut qu'il y ait quelques bijoux. Il faut qu'il y ait peut-être un numéro de téléphone pour que la personne puisse appeler, qui est redirigé sur mon portable. Enfin voilà, c'était vraiment la base, mais juste suffisant pour que ça puisse marcher. Et donc cette personne passe commande, et là où ça devient hyper intéressant.
Donc sur PayPal.
En l'occurrence virement bancaire. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, le RIB qu'on avait inscrit à la main en croyant que c'était plus classe en fait de ne pas mettre un RIB, mais juste de le recopier, était erroné. Et donc autant te dire que c'était un peu n'importe quoi et qu'en fait on avait dû rapatrier le virement. Enfin bon, ça a été l'enfer. Mais elle a quand même passé commande, cette bonne dame. On la remercie beaucoup. Et donc elle passe commande. Et là viennent les problèmes, les vrais, qui sont qu'il faut fabriquer la bague. Parce que comme je te l'expliquais, on n'avait pas en fait le bijou. Et on était tellement lean startup dans l'état d'esprit qu'on n'avait jamais fait de prototype de bijou. Donc on ne savait même pas si c'était réellement possible. Et là nous tombe dessus cette commande à 300-400 euros d'une bague en or rose et topaze. Et il faut la produire dans un délai théoriquement de 10 semaines. Ça a été l'enfer parce que en fait tout est allé de travers, les pierres ne rentraient pas dans le bijou, évidemment ils ont eu énormément de retard, je les harcelais au téléphone tous les jours, mais on était un pauvre client, ils en avaient rien à faire. Déjà pour qu'ils acceptent de le faire, j'avais dû les supplier, tu peux pas imaginer. Et au final,
tu vas dans le centre de Paris où
Alors là en l'occurrence non, on avait réussi, la seule personne qui acceptait de le faire pour nous, c'était un atelier qui était dans les Vosges, qui est l'un de nos plus gros partenaires maintenant et qui travaille toujours avec nous, qui était le seul qui a accepté de le faire. Parce qu'en fait, les gens ne voulaient pas, tout simplement. J'ai dû appeler peut-être 150 personnes avant de trouver une personne qui accepte. Donc, eux acceptaient, mais sur un délai de 10 semaines de fabrication, ce qui est énorme. Et honnêtement, en n'ayant rien à faire de nous. Et donc au bout de 10 semaines, si tu veux, ils nous renvoient le bijou, qui finalement, ils ont réussi à mettre la pierre dedans. Mais le bijou est monté à l'envers, c'est-à-dire que la pierre était dans le mauvais sens. Et donc là, en faisant une espèce de contrôle qualité, j'ai pas besoin d'être joaillière pour me rendre compte que juste le design n'est pas respecté. Donc je me rends compte qu'on va être mais tellement en retard, parce que déjà qu'on était limite, là en plus je reçois le bijou, il est juste complètement faux. Donc je suis obligée de renvoyer le bijou là-bas.
T'appelles la cliente en parallèle?
J'appelle la cliente évidemment, donc première gestion, etc. Tout ça pour dire qu'en fait c'était hyper intéressant, parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent, et c'est un petit conseil aussi que je peux donner en se disant je vais faire un business plan, je vais lever des fonds, je vais essayer de peaufiner en fait mon business model, etc. Et en fait sans vraiment se confronter à la réalité du client. Et tout le concept du lean startup, c'est justement ça, c'est de se dire votre produit va être complètement imparfait, votre boîte va être imparfaite, mais lancez-vous et essayez quand même de tout de suite avoir des clients, parce que vous allez tellement apprendre avec ces premiers clients. Et nous, cette bonne dame, enfin, on a appris à gérer un service client en galère. On a dû la livrer finalement, gérer aussi la livraison, parce que livrer des bijoux, même si on l'avait pensé, en fait, c'est pas la même chose quand tu dois le faire. On a dû gérer les ateliers, comment leur expliquer,
etc. Et là, tu dis pas, en fait, on s'est complètement fourvoyé. Il faut, on aurait, enfin. C'est un mauvais business.
Écoute, je t'avoue que moi, je pense que j'ai une... Enfin, je sais pas si c'est un talent ou si c'est juste ma personnalité, mais je suis quelqu'un d'assez... Alors, optimiste, déjà, et je suis quelqu'un de... J'ai appris une chose dans la vie, c'est à gérer les crises. Je suis assez bonne en gestion de crise, et du coup, en fait, dans ce genre de moment, je sais qu'il faut pas trop se poser de questions, il faut gérer les problèmes, et après, on se regroupe et on réfléchit. Et donc là, j'étais plus en mode, avec d'ailleurs Sharif et Malek, on exécute et on gère le problème, on a la cliente de l'autre côté du fil, c'est notre seule cliente. On va quand même pas avoir créé une boîte pour avoir une cliente à qui en plus on n'arrive jamais à livrer un bijou, tu vois. Et donc j'étais plus en mode non, il faut que je le gère, et c'est pas un vrai problème. Enfin, tu vois, au fond, c'est des aléas, mais c'est pas, ça remettait pas en cause le fait qu'on soit pas capable de fabriquer des bijoux.
Et en parallèle, t'avais d'autres commandes qui.
On en avait un petit peu, c'était faible. C'était faible, hein. Enfin, je te cache pas, on faisait zéro marketing. Donc là, c'était uniquement du Google, mais comme on était sur Google depuis très peu de temps. Et surtout, on s'était dit qu'on voulait pas en avoir trop au début, parce que c'était déjà une telle galère, si tu veux, d'avoir cette première cliente, qu'on n'en cherchait pas tant que ça. Et d'ailleurs, on a mis un petit peu de temps avant d'investir sur le marketing réellement, parce qu'on a d'abord voulu quand même avoir des premiers clients qu'on arrive à mieux gérer, pour ensuite appuyer sur le champignon du marketing quand on était un peu plus sûr de savoir livrer nos clients dans les temps et avec des produits corrects, quoi.
Donc là, j'imagine que la suite, c'est améliorer les process, donc pour avoir une production plus fiable, plus belle, plus rapide, etc. Et en parallèle, financer tout ça.
Bah exactement. Alors le premier milestone, je l'ai dit, c'était créer un site internet où on était capable de vendre. Le deuxième, c'était avoir 5 clients. Et le troisième, c'était bah, si on a 5 clients, lever des fonds pour se payer un petit peu et puis pouvoir améliorer nos process, justement, payer un peu mieux nos ateliers, peut-être recruter des personnes pour nous aider, avoir des bureaux, enfin, tout ce genre de choses. Et donc, c'est ce qu'on a fait.
Parce que c'est ambitieux de se dire...
Avec mes clients, tu vas réussir à lever des fonds. Ouais, mais attends, tu sais que c'est à la fois c'est ambitieux, mais en même temps, il y a tellement de personnes qui lèvent des fonds et qui n'ont même pas de clients.
J'en pleure en presque, comme je me dis, quand je me dis, tu sors de tes études, je vais avoir 5 clients et je vais lever des fonds. Non, mais c'est bien vachement sûr. Bien, t'as réussi.
Clients, et 5 clients B2C mais... en plus, ouais, hein, ouais, c'est même pas ça, comme si c'était. Mais une fois de plus, là aussi, conseil que je peux donner, c'est que bah, aussi 5 clients, en ayant créé, sorti de terre une boîte en 3-4 mois, tu vois, qui prouve ta capacité d'exécution, qu'on est une bonne équipe, que ça valide un minimum quand même le marché. Donc c'était tout ça. Et en fait, en réalité, nous, la raison pour laquelle ça s'est très bien passé, c'est de lever de fonds, et ça allait très vite. On a levé des fonds en 3 semaines, 400 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque surtout, je pense que c'est peut-être moins le cas maintenant, mais des personnes qui levaient des fonds avec déjà un site existant, un business qui existe un petit peu et quelques premiers clients, mais c'était très, très rare en réalité. Les gens commençaient par lever des fonds. Et d'ailleurs, moi, c'est un des gros reproches que j'ai pu faire à la formation à la majeure HEC Entrepreneur, c'est qu'il y avait une espèce de surenchère et de valorisation permanente de la levée de fonds versus juste le bon vieux business, rentable.
On en est au zénith, là. Ouais. Non, je sais pas si on ira plus loin que, mais là, en ce moment, j'ai l'impression que la levée de fonds est une fin en soi.
Ah, bah, complètement.
En dizaines de millions d'euros, quoi.
Exactement. Et c'est vrai qu'en plus, maintenant, les sommes sont vraiment hallucinantes par rapport à l'époque où ça restait encore léger. Et donc, on a réussi à lever ces fonds et je dois dire que.
Quel moment t'es début 2012?
C'était décembre 2011. Donc,
c'est quand même enchaîné bien.
Ouais, en 6 mois.
Ouais, ok.
Ouais, c'est
là,
très
là,
rapide.
Tu veux vous respirer un petit peu
financièrement un petit peu plus, ouais. On commence donc à se payer même en dessous du SMIC, je crois. Enfin, c'était. Et ensuite, donc on se dit, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une chaîne de fabrication quand même qui soit un petit peu plus efficace que précédemment. Et qu'on commence à avoir un vrai site internet. Parce
là,
que
tu vas voir ton gars dans les Vosges, tu lui dis, attends, j'ai 5 clients, mec.
C'est ça, 5 clients. Non, mais on a essayé de trouver d'autres ateliers, surtout. D'accord. On a créé plus de produits, on a vraiment travaillé là-dessus. On a acheté un peu de pierre, trouvé des meilleurs fournisseurs de pierre, recruté une personne pour nous aider là-dessus. Et aussi quand même beaucoup travaillé sur le site internet, qui était à la base un site WordPress qu'on avait transformé, si tu veux. Enfin, c'était un blog, quoi, concrètement, qu'on avait transformé en site marchand.
Suffisant
ce qui est largement
pour
suffisant
faire
pour, faire, pour faire le job et pour faire les 5 ventes. Mais après, on savait que ça serait pas possible. Et donc, en fait, on a pris une agence qui nous a coûté de l'argent, évidemment, pour créer notre premier site réellement marchand.
En PrestaShop, Magento.
Non, c'était Magento.
Magento, déjà ?
Ouais, Magento, parce qu'en fait, mine de rien, avec la personnalisation, donc le fait que tu puisses changer les pierres et les métaux, bon, c'est quand même un petit peu plus lourd. Et donc, on est parti là-dessus. Après,
ça nous a coûté en bas.
Ça nous a coûté assez cher, ouais. Ça nous a coûté 30 000 euros, je crois. Donc,
cher pour un Magento.
Non, mais ce qui, à notre échelle, était bien déjà cher, tu vois. Et donc on a avancé là-dessus et ensuite refait une autre levée de fonds en juillet, donc assez rapidement, en se disant en fait pendant tout ce temps-là, si tu veux, on avait des ventes, on essayait de faire autant qu'on pouvait du marketing, si je puis dire, mais c'était plus de la guérilla marketing qu'autre chose, c'est-à-dire trouver des blogueuses qui parlent de nous, personne ne parlait de la joaillerie dans les blogs, un peu tous les petits quick wins qu'on a essayé de faire qui coûtaient très peu d'argent pour quand même essayer de faire parler de la marque, des RP, beaucoup de RP, faire aussi évidemment exister sur les réseaux sociaux, enfin essayer de générer du bouche à oreille. Donc en fait, on a vraiment essayé de créer un peu du buzz, alors j'aime pas le mot, mais faire parler de nous avec zéro moyen très tôt pour lancer la machine et continuer à essayer d'avoir des clients en parallèle de tout ce qu'on faisait sur le fond, quoi.
Et les levées, c'était donc seed 400.
Ouais, 400.
Et après, t'es série A.
600.
600. Donc, t'es pas dans une grosse
série
A vraiment.
Toujours avec les mêmes, en fait, en réalité. C'était des business angels et des petits family office.
D'accord.
C'est aussi pour ça que ça allait très vite. Et puis, nous, on était assez clair sur le fait qu'on voulait rester opérationnel et que la boîte se développait. Donc, qu'on n'avait pas envie, de trop tergiverser et de prendre énormément de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre, maintenant, je pense que les gens le savent un petit peu, mais beaucoup de jeunes gens qui se lancent et qui se lancent dans la levée de fonds et qui planifie presque que ça va durer un an et demi. Mais le problème, c'est que sincèrement, clairement, c'est énormément d'énergie. Tu dois aller rencontrer des gens, tu dois pitcher, etc.
Tu bosses pas sur ton business
pendant ce temps-là. Donc en fait, c'est vrai que nous, on a tout de suite mis des deadlines aussi. Enfin, mon mari, c'est un peu le pro de la deadline et du coup, il était assez bon pour ça, en disant nous, c'est 3 semaines. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez rentrer, c'est voilà le ticket minimum. Et donc, ça allait très très vite.
La deuxième n'était pas prévue lors de la première.
Non, elle n'était pas prévue, mais on s'est rendu compte assez rapidement, comme beaucoup de gens, je pense, qui lèvent, que l'argent c'est bien et surtout que ça nous permettait de faire plein de choses et qu'en fait on en aurait besoin d'encore beaucoup beaucoup plus pour créer une marque parce
surtout que tu crames en marketing, t'es obligé sur ce genre de business.
Bon, là à l'époque je te dis on en fait c'était un peu de l'anticipation sincèrement quand on a levé, parce qu'en réalité on dépensait peu encore, mais on faisait très peu de marketing, mais on a commencé quand même on s'est dit qu'on allait bientôt en dépenser plus, et d'ailleurs on a commencé réellement à faire du marketing en fait à partir de septembre 2012 plutôt. Notamment tout ce qui est AdWords, à l'époque il y avait même pas Facebook Ads, donc c'était majoritairement de l'AdWords, c'était beaucoup de l'affiliation, des blogs, on a surtout du web marketing je dirais quand même à l'époque, et on a pris notre première agence RP aussi pour nous accompagner, et donc moi j'ai appris à gérer ça. Mais au début, en le faisant toute seule, et ça aussi, c'est quelque chose que les gens doivent avoir en tête, c'est que même quand t'as zéro argent, 0 euro, tu peux quand même réussir à faire parler de toi, tu peux réussir à créer un peu de traction, quoi. Même dans du B2C où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence, en étant un peu malin et en pensant les choses différemment. Et nous, parler de notre business model, parler de notre ADN de marque, cibler les bons journalistes, juste être aussi persévérant et ne pas arrêter, tu vois, d'essayer de les démarcher. C'est quelque chose qui a fait qu'on a eu des super retours. Enfin, tu vois, on est passé dans 7 à 8, comme ça. Genre, oui. J'ai réussi à choper le mail d'Emmanuel Chin et de lui envoyer un message pour lui dire, j'ai envie de vous parler de ma marque, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Il a accepté de faire un déjeuner avec moi. Et en gros, on est passé dans 7 à 8. Enfin, à l'époque, si tu veux, on n'avait rien. C'est assez admirable. Et tu te dis, ça peut réellement changer le début, en fait, de ta croissance et de ta boîte.
Sachant que je pense que ça peut faire partie des avantages de temps en temps d'être une femme aussi. C'est-à-dire que la femme entrepreneur, c'est quelque chose que les journalistes recherchent pas mal.
Bien sûr. Tu peux dire, alors là, c'est délicat, je sais, mais alors je suis la première je suis d'ailleurs en général pas très, politiquement correct là-dessus, mais. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, être une femme dans le monde de l'entrepreneuriat est un énorme avantage.
Oui, mais t'as les downsides aussi. Peut-être qu'un financier, certains un peu macho, ça arrive, j'en sais rien, mais je pense que c'est moins en moins vrai.
Même eux, aujourd'hui, cherchent des femmes et cherchent à funder des femmes parce qu'il y en a très peu. Donc, je pense qu'il y a une discrimination positive aujourd'hui qui, donc, est positive pour les femmes et qui les aide. Après, il n'y en a pas encore beaucoup, malheureusement, et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'éducation à faire et qu'elles doivent avoir plus confiance en elles, mais il y en a de plus en plus, moi je le vois beaucoup, et surtout avoir beaucoup d'ambition, parce qu'en fait, je pense qu'aussi l'un des enjeux, c'est que on peut être une femme entrepreneur et avoir de l'ambition, c'est pas juste, tu vois. Souvent les femmes entrepreneurs, c'était avant un peu catégorisé de je suis en congé maternité et du coup pendant ce temps-là j'ai un peu le temps et je fais autre chose en même temps, et en fait je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de femmes maintenant qui ont créé des boîtes incroyablement successful. Je pense évidemment à Fanny Pescioda avec My Little Paris, enfin il y en a incroyablement, et je pense que c'est des beaux exemples justement qui motivent et qui donne envie d'y aller, quoi. Et donc, bref, tout ça pour dire que oui, ça a été un atout d'être une femme, c'est évident.
Je veux dire, chacun doit aller chercher ses atouts. Je veux dire, ton histoire est un atout quelque part. Je pense que chacun a, quand on a fait de très belles études et qu'on a un peu pivoté à un moment, il y a une histoire à raconter. Quand on n'en a pas fait du tout, il y a une autre histoire à raconter. Si tu commences cheminot et que tu finis chef d'entreprise, et je respecte énormément les cheminots, hein, mais je prends pas le train, donc je ne les ai pas en ce moment, mais du coup, voilà, en effet, je pense que chacun doit chercher dans son, exactement, tu le disais tout à l'heure, mais dans son parcours, quelque chose de singulier. Et c'est ce que cherchent les journalistes.
Ou dans son business, parce que c'est pas uniquement forcément polarisé sur la personne.
Bien sûr,
tu as
raison. Et du coup, marketing, septembre 2012.
Exactement.
Et on vous voit apparaître, moi je crois que la première fois que j'ai découvert Gémio, vous avez fait des campagnes 4x3, des grosses.
Tout à fait. Ouais. Ça, c'est
comme
un peu
quoi,
plus
ça
tard.
Marche encore. Hein. Moi qui suis à fond sur le marketing digital.
En fait, on a mis donc quasiment 3 ans avant. On a commencé en novembre 2014, pour être précise, parce que donc les 2-3 premières années de Gemio, comme tu as compris, c'était vraiment créer les grands piliers fondamentaux de la marque, donc à la fois au niveau de la plateforme de marque sur laquelle on a beaucoup réfléchi, les designs des produits, la fabrication, les expéditions, la logistique, enfin vraiment, et juste l'équipe. Donc ça, c'était hyper important. Et quand on a senti qu'on commençait à avoir un vrai objet solide, donc, là, on a commencé à vraiment faire du marketing plus fort. Et donc,
durant ces 3 années, vous avez pas, pardon, je te coupe, mais vous étiez pas rentable, c'était pas l'objectif.
Absolument pas. Non, comme malheureusement beaucoup de gens qui lèvent des fonds, c'était pas la fin en soi. L'idée, c'était la croissance.
Ouais.
Et c'était c'était juste de faire des 200% de croissance, enfin, comme on fait souvent à ce moment-là, quand on est une jeune entreprise. Et donc, non, la rentabilité était pas, et d'ailleurs, on était absolument pas rentable.
Et tu passes de 5 clients à une centaine de clients à, enfin, c'est.
Ouais.
C'est,
alors, je t'avoue que je me rappelle pas des chiffres exactement, donc je vais pas te dire de bêtises, mais en gros on est monté assez vite, enfin
je veux dire, c'est pas spectaculaire si...
c'est une croissance qui était très forte.
Ouais.
C'était une croissance qui était très forte. Elle a surtout été forte à partir de 2012. 2011, c'était quand même vraiment de la mise en place.
Ouais.
Donc, à partir de fin 2012, là, on a senti un premier décollage. 2013, très fort décollage. Je crois qu'on, je vais pas te dire de bêtises non plus, je devrais me rappeler de ça, mais il me semble qu'on doit faire peut-être 1,5 million, tu vois, de chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc, ça commence à être un petit peu plus solide. Et on lève des fonds avec un, donc, on relève des fonds avec cette fois Alven Capital, qui est pour le coup un fonds.
Vrai série.
Ouais. Et là, on lève en plus un peu plus de 3 millions.
Donc, à quel moment ?
Avril 2013.
Avril 2013. Et du coup, là-dessus, je reviens sur un truc important, mais pour moi, un chiffre un peu magique chez les entrepreneurs, c'est 18 mois. C'est-à-dire que, tu le dis, hein, mais dans les 18 premiers mois, c'est de la mise en place. Mais faut savoir, tu parles de patience depuis tout à l'heure, je suis revenu plusieurs fois, mais c'est dur et c'est long, 18 mois. Enfin,
c'est long.
Ça, comme ça, on peut se dire, quand tu reviens en arrière, tu regardes, tu te dis bon, souvent tu regardes ça avec un peu de tendresse, mais c'est hyper long, c'est hyper dur, t'as plein de doutes, t'as plein de...
Bien sûr.
Et faut être capable de passer cette période.
C'est vrai. Alors nous, on avait la chance d'être. Moi, je suis très admirative. Je vais être honnête avec toi, des personnes qui créent leur boîte seules, parce que je pense que dans les moments de doute, mais je ne sais pas comment ils font aujourd'hui. Ça reste un mystère pour moi. J'en parlais d'ailleurs sur mon podcast avec Guillaume Gibault, tu sais, qui a créé le slip français seul. Pour moi, c'est quand même, enfin, vraiment, il faut une énergie et une mentalité de
guerrier.
De guerrier, quoi. Ouais. Exactement. Et donc moi,
après,
je me serais pas senti capable.
T'es le seul acteur. Actionnaire,
oui, non, mais ça a plein d'avantages.
T'es jamais seul aussi, je veux dire. Enfin, t'es seul dans le choix, dans certaines choses, mais y a quand même des gens qui t'entourent.
Bien sûr. Bah, d'ailleurs, lui, je pense qu'une de ses grandes forces, c'est qu'il s'est très tôt entouré et très bien entouré. Mais bon, enfin, moi, en tout cas, je me serais pas senti capable, surtout pour ma première boîte, de faire ça. Et donc, le fait d'être avec 2 associés que je respectais énormément. Et avec qui on est très complémentaires, parce qu'on, je pense qu'on n'a pas nos ups et nos downs en même temps, on n'a pas du tout les mêmes compétences, même les mêmes talents, je pense. Du coup, c'était génial, parce qu'en fait, certains trucs qui moi me paraissaient insurmontables, Malek lui disait non mais attends, enfin ça, moi je te mets un process, t'inquiète, ça va être réglé. Mmh. Et à l'inverse, moi, tu vois, aller démarcher comme ça, out of the blank, Emmanuel Chin, enfin lui, il me regardait mais comme juste une surfemme, si je puis dire, de faire ça. Et en fait, moi, ça me paraissait complètement normal. Tu vois, d'aller de l'avant. Et donc, je pense que cette complémentarité, tant au niveau des valeurs que des talents, que sincèrement juste de l'énergie, c'est hyper, hyper important. Et nous, on a énormément fonctionné comme ça. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on a eu évidemment des moments difficiles à cette période-là. Mais en fait, on était toujours en quinconce, tu vois. Et donc, on n'a jamais eu de moment où on était tous les trois complètement au fond du trou.
Et ça, c'est quand même surprenant parce que, alors, je vais revenir là-dessus juste après. Mais du coup, avant, j'ai une première question. Vous n'êtes pas une boîte tech?
Pas totalement.
Ou alors je peux leur poser, vous êtes une boîte tech plutôt, point d'interrogation.
En fait, on était une boîte tech à la base, je pense, parce que c'est un peu ce qui nous intéressait et qu'en fait, on s'était dit que pour innover, il fallait qu'on soit tech. Et donc, on a eu une idée, c'était d'utiliser l'impression 3D. qu'on utilise toujours aujourd'hui pour la fabrication de nos bijoux. Et donc, je n'en ai pas trop parlé précédemment, mais une des raisons pour lesquelles on arrive à fabriquer rapidement, et ce qui a été très long dans la mise en place justement de ces fameux processus, c'est pas tellement de trouver des artisans, etc. C'est trouver des artisans où, dans la première étape, qui est la conception du bijou et le premier prototype, bah, en fait, on utilise l'impression 3D. Et donc, en fait, les images qui étaient sur notre site à cette époque n'étaient même pas des photos, puisqu'on n'avait jamais même shooté les bijoux, puisqu'on n'avait pas de bijoux. C'était des images de synthèse qu'on avait nous-mêmes faites, que d'ailleurs 3D. Malek faisait. En 3D. Et donc, c'est auto-formé là-dessus. Et donc, en fait, il y a quand même une dimension tech, si tu veux, là-dessus. Après, et puis c'est digital, c'est un site internet. Mais après, non, par rapport à d'autres, c'est pas du big data. Ou...
Et vous avez pas d'associé tech?
Alors, d'associé tech, tu veux
de
dire?
De dev, d'ingénieur.
Alors, mes deux cofondateurs sont ingénieurs, hein, de D'accord. formation, quand même. Mon mari, donc Sharif, il a fait Centrale. Okay. Et Malek, il a fait Polytechnique. Donc,
oui, ok.
Et en plus, très, très geek et très, très tech
donc
dans
tu,
la tête.
Je
suis de très largement la moins tech des trois.
D'accord, non, mais tu réponds, tu coches quand même des cases par rapport à j'ai été surpris de voir Alven dans tout ça.
Ouais.
Parce qu'il y a des choses où, généralement, on va te dire, si t'as pas d'associé tech, t'oublies, ce qui est pas toujours le cas, puisque j'ai eu plusieurs personnes sur ce podcast qui ont fait des boîtes tech formidables sans associé tech. Le côté familial aussi, c'est des choses qui font peur parce que...
Bah, Alven, d'ailleurs, sur ces deux points, tu touches du doigt des choses très justes. Sur ces deux points, c'était un peu ce qui, je pense, leur faisait peur. Hein. Ils nous l'ont dit, d'ailleurs. Ils nous ont posé des questions clairement là-dessus en nous disant, mais franchement, si jamais vous vous séparez, là, Pauline et Chaïf, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est honnêtement, c'est le cauchemar d'un VC, hein, ce genre de choses.
Parce que c'est tout. Alors vous perdez tout parce qu'en plus,
bien sûr.
Vie perso, vie pro, etc. Mais à la fois, je crois qu'il y a des histoires, je cherche ça depuis tout à l'heure, mais de personnes qui se séparent et qui réussissent à bosser encore ensemble
oui,
après.
Il y en a. Il y en a. Bah, je crois que, je vais pas te dire de bêtises, mais je me demande si Isolis Kos, la fondatrice de Mille Merci, ne s'est pas séparée parce qu'elle travaille donc avec son, en tout cas, elle a créé la boîte avec son mari ou je sais pas s'il était marié, mais, et il me semble qu'ils se sont séparés entre temps. Mais ça existe et ça peut exister. Il y en a plein. Enfin, puis en plus, toujours sur ce sujet quand même de l'entrepreneuriat en couple, c'est extrêmement difficile. Mais après, faut quand même réaliser que c'est aussi quelque chose d'universellement fait dans le monde. Tu vas en Inde, tu vas en Chine, il n'y a que ça, des boîtes familiales où la femme gère...
Mais il suffit d'aller à l'Assemblée nationale, d'ailleurs.
Bah, et puis il suffit d'aller juste à la boulangerie du coin.
Comme François Pignon et Pénélope.
Exactement. C'est vrai. Mais même à la boulangerie du coin où t'as madame qui est au comptoir et monsieur qui est au fourneau, tu vois.
C'était son excuse, d'ailleurs.
Voilà.
Et du coup, je voudrais revenir un peu là-dessus après, mais on va finir jusqu'à présent sur Gemio. Je pense que c'est des points importants sur ton équilibre de vie aujourd'hui et voilà. Donc, avril 2013, troisième levée de fonds, série A. Il y en a eu d'autres après?
Non, on a eu de la dette après, mais on n'a pas relevé de fonds.
Ok. Et aujourd'hui, vous êtes rentable?
Aujourd'hui, on est rentable. 2017, notre première année rentable. Très, très heureux.
Félicitations. D'accord. Et donc, vous êtes une trentaine de personnes, je crois.
Exactement.
C'est qui le patron?
Il y a un peu trois patrons. Hein. On a un peu un triumvirat. En fait, mon mari, donc il faut que j'arrête de dire mari. Sharif est CEO de la boîte officiellement, okay. Et Malek et moi sommes DG officiellement. Après, moi j'ai un rôle qui est quand même beaucoup plus maintenant axé création, market pur, client, enfin très front. Et Malek, honnêtement, c'est plus un DG opérationnel réellement, c'est-à-dire que lui tout ce qui est process, mais je le dis pas du tout de façon dévalorisante. Au contraire,
Tu vois,
c'est lui honnêtement, c'est lui qui fait tourner la baraque. Moi, je suis plus là pour avoir de nouvelles idées et pour créer de nouveaux produits, pour aller chercher de nouveaux projets. Et Sharif, en fait, on va dire qu'il coordonne un peu tout ça et qui, notamment, il a géré pas mal les parties financières historiquement. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se répartit les rôles aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui fait la différence? On a parlé du 0 to 1, de jusqu'à la levée, entre 2013 et aujourd'hui. Si tu avais quelques petites histoires ou choses qui pourraient nous... Moi, je suis passionné du 0 to 1.
Ouais.
J'aime beaucoup la suite. Mais je pense que c'est tout souvent plus long et compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle sur plein de silos différents.
C'est ça, c'est que c'est pas facile en fait. Il n'y a pas un élément unique, tu vois, c'est jamais le cas. Et je pense que ça serait trop simple. Après, tu as parlé rapidement donc de notre fameuse campagne d'affichage avec le chat rose. Je pense que ça a été assez clé. En fait, c'est l'aboutissement, c'est pas le début. C'est que on s'est rendu compte en 2013 quand on a levé des fonds avec Alven qu'en fait on voulait pas juste être un site internet qui vendait des bijoux, mais on voulait vraiment être une marque. Et donc en fait, tout 2013 2013 et 2014 a été un immense travail sur notre marque pour essayer de comprendre qui on était, à qui on s'adressait. Et donc, bah, ça, c'est beaucoup moi qui l'ai mené. Mais en fait, l'idée, c'était de se dire, si on veut être remarqué, il faut être remarquable et il faut vraiment être précis, en fait, dans notre différenciation et pas juste essayer de vendre des bijoux à tout le monde. Et on se rendait compte.
C'est une sorte de e-commerçant à une vraie marque.
Exactement, exactement. Et donc, ça s'est vraiment fait à cette période. Et donc, l'aboutissement de toute cette réflexion, ça a été une campagne d'affichage que tu as peut-être vue, du coup, avec un chat rose qui a sur son oreille une bague. Et ça a été une explosion. Et pourquoi ça a été une explosion? Parce que, en fait, maintenant, ça paraît basique et il y a tellement de gens qui l'ont vu, cette campagne, qu'ils se disent, en fait, ça fait plus rire personne, si tu veux. Mais quand on a sorti cette campagne en 4x3 dans le métro, enfin vraiment, c'est la première fois, je pense, que je voyais une campagne d'affichage de pub où tu avais des médias qui en parlaient. On a quand même eu Nouvelle Obs, L'Express, Les Échos qui ont parlé de notre campagne d'affichage. Enfin, si tu veux, ça n'existe pas. Des personnes qui se prenaient en photo devant, qui nous retweetaient, qui nous instagrammaient, qui nous taguaient sur Facebook, si tu veux, devant le chat rose en disant « c'est trop cool ». Et qui ont même demandé à Média Transport, donc la régie publicitaire du métro,
dirigée par une femme, Valérie Descamps,
exactement, qui est exceptionnelle, en leur lui disant, mais c'est incroyable à quel point en fait ce petit chat rose juste réenchante l'expérience du métro, parce que juste c'est vrai qu'il est très beau et que il crée une émotion positive en réalité. C'est ça d'ailleurs ce qu'on voulait faire. Et donc en fait ça a été une vraie campagne de buzz et notre croissance, je crois, a fait un bond de 150%, tu vois, le mois qui a suivi et d'ailleurs les mois qui ont suivi.
Donc, je mettrai un lien vers la campagne sur les notes.
Écoute, il y a eu un impact très très fort et je pense qu'on a vraiment passé un palier à ce moment-là qui est qu'on est devenu une marque. Enfin, en tout cas, on a commencé à devenir une marque et on a commencé à être un peu plus connu. Avant, en fait, je pense que les gens venaient surtout chez nous pour avoir un bon rapport qualité-prix, parce que c'était pratique et du coup, c'était très digital. Et là, en fait, on est passé, entre guillemets, dans la cour des grands parce que c'était plus du top of mind, c'est-à-dire je cherche un bijou. Ah, c'est quoi cette marque hyper sympa avec un petit chat rose? Et hop, les gens ensuite allaient sur Internet. Et donc, on a vu d'ailleurs l'accès direct sur le site considérablement augmenté à ce moment-là. Et donc, ça a été un vrai moment pivot pour nous, si tu veux.
Quand tu mets le doigt dans l'engrenage là-dessus, tu te retrouves pas obligé
C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait pas que ça et qu'on continue on a vraiment un flux continu, si tu veux, de dépenses web marketing très héroïste. Mais après on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que la joaillerie c'est très particulier et je préconiserais pas du tout ça pour tout le monde, mais en fait les gens n'achètent pas un bijou parce qu'ils voient une pub avec marqué moins 10%, parce qu'en tout cas ça coûte quand même relativement cher, même si, comme tu l'as très bien dit, on a un excellent rapport qualité-prix. Même si t'as moins 10% sur un bijou à 2000 euros, si tu veux, c'est pas pour autant que tu vas acheter une bague à ton épouse. Tu achètes parce qu'à un moment donné t'as besoin d'un bijou pour des fiançailles, un anniversaire, etc., et que tu vas y penser. Et donc il faut à ce moment-là que tu sois dans le top of mind des gens. C'est pour ça ce mot top of mind en joaillerie est clé, et je pense pas du tout qu'il soit clé pour des slips ou un t-shirt, quoi.
Ah, le slip français, justement, y a un peu de différence, mais c'est vrai que t'arrives à, je pense, il y a le top of mind qui est important, et là, tu connais, évidemment, je connais pas ce business-là, mais je pense qu'il y a le côté statutaire aussi, c'est-à-dire bien que sûr. De temps en temps, acheter une bague Van Cleef Cartier ou Gémio, peut-être, ou je sais pas tout si c'est fait. Déjà le cas, mais c'est quand même, quelque chose où tu sais qu'il y a un côté un peu, dans une certaine partie de la population, peut-être, je vais pas acheter une bague Tatior, quoi.
Bien sûr, mais nous, tout à fait. D'ailleurs,
même si c'est exactement la même, d'ailleurs.
C'est pas le cas. Non. Je vous rassure, messieurs. mais ce qui est marrant, c'est que je me rappelle, je me suis vraiment fait cette remarque un jour où je vois passer une commande et je vois les gens peuvent graver, tu sais, l'intérieur de leurs bijoux. Et là, je vois quelqu'un qui grave à l'intérieur le mot Gémio. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bien. Et donc, on appelle le client. Et en fait, il voulait qu'on voit que ça soit un bijou Gémio, parce qu'il était tellement fier d'avoir un bijou Gémio qu'il avait fait graver à l'intérieur. Et maintenant, ça arrive régulièrement, parce qu'en fait, on ne grave pas, nous, l'intérieur des bijoux de façon spontanée avec notre marque. Il y a un poinçon, tu vois, qui atteste que c'est nous. Et donc, il y a des personnes qui choisissent de payer 20 euros pour graver Gémio à l'intérieur. Mais donc ça, quoi, je t'avoue que ça m'a fait un bien fou.
Maintenant, tu sais ce qui s'est passé quand même avant qu'on enregistre. Tu m'as dit « j'aime bien ton alliance ». Tu m'as demandé ce que c'était, j'ai regardé dedans pour te donner le nom de la marque.
Ah, mais oui, non, mais bien
donc
sûr.
Peut-être que dans quelques années, il y aura des gens qui pourront pas dire puisqu'il n'y a pas marqué, mais j'ai mis dedans.
C'est vrai. Bah, écoute, pour l'instant, c'est un choix qu'on a fait justement parce qu'on voulait, nous, on a une vision du luxe qui est assez discrète et assez authentique. Et donc, on n'aime pas trop, tu vois, le côté très logotypé, etc., qu'on peut trouver chez certaines marques. Donc, pour l'instant, c'est un choix. On y a pensé beaucoup. Et puis, en plus, du coup, ça enlève de l'espace aussi pour les gens qui veulent vraiment graver leurs bijoux. Mais peut-être qu'on y viendra.
D'accord. Et alors c'est marrant parce que est-ce que tu me dirais à peu près combien vous dépensez par an
en marketing? C'est
quelques centaines de milliers d'euros.
Oui, enfin des grosses centaines de milliers d'euros.
Oui, d'accord. C'est beaucoup. Non, mais c'est en fait, je dis ça parce que on a beaucoup de gens chez Cosa Vostra qui viennent nous voir pour créer des sites et qui croient qu'une fois que tu crées un site,
ah non, ça se fait tout seul, non.
Bah, il va y avoir des ventes. Et puis après, ils viennent nous voir 2 mois après et puis ils nous disent, mais ça marche pas votre truc.
Non,
j'exagère, ça arrive de moins en moins quand même. Hein, mais
non, mais c'est sûr que c'est la partie difficile. Enfin, créer un site et une belle expérience et avoir un bon produit, c'est déjà extrêmement dur. Mais en plus, créer un trafic de qualité vers ton site, c'est extrêmement dur et donc écoute. Oui, malheureusement, bah c'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait de levée de fonds et de la fuite en avant un peu des levées de fonds, c'est que malheureusement les gens qui veulent créer de la croissance, c'est qu'ils sont aussi souvent bien obligés d'investir en marketing et qu'il y a très peu de marques ou de produits qui sont suffisamment forts pour avoir une traction en fait sans dépenser. Et même souvent quand on creuse, en général, c'est pas vraiment si naturel que ça, tu vois. Et
t'as des dépenses d'une manière ou d'une autre.
Exactement. Et puis t'as aussi des coups de chance, des accélérateurs. Tu peux, que ça soit via les RP, être par exemple au début d'Instagram, tu vois, tu pouvais être mis en avant par Instagram et donc avoir énormément de followers d'un coup. Enfin, il y a des petits coups d'accélérateur, mais globalement, il y a quand même pas de secret. Malheureusement, ça coûte souvent assez cher.
Et c'est marrant parce que t'es la deuxième personne. J'ai eu Ludovic Hureau de Attractive World qui est venu sur ce podcast et qui me disait que le game changer pour lui, on me dit que j'utilise trop d'anglicisme, je vois que t'es pas meilleur que moi.
Ouais, on me le dit aussi.
Et ça a été une campagne télé en l'occurrence.
Ah hein, oui. Oui, lui, il en a fait énormément. Ouais.
Et c'est quoi maintenant l'avenir de Gemio alors?
Écoute, notre avenir est une fois de plus, on est rentable et du coup, l'avenir est plutôt sain, ça c'est déjà une première chose, mais en fait il est très orienté retail maintenant. On a ouvert notre première boutique à Paris en 2015, donc fin 2015, et là on en a ouvert une deuxième à Lyon en 2017 et une troisième là au printemps Haussmann à Paris tout récemment en avril 2018. Et l'idée c'est qu'on continue parce qu'en fait on se rend compte que même si on était initialement un pure player, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on a mis beaucoup de temps avant de se décider, justement parce qu'on avait en nous cet ADN de pure player et qu'on résistait.
90% des gens qui écoutent ce podcast savent ce que c'est, mais
oui, pardon, je suis désolée.
Pour ma maman, un pure player, c'est quelqu'un qui
est entièrement sur Internet.
Exactement.
Et donc, on n'avait pas de boutique, on vendait uniquement sur Internet nos bijoux. Et donc, on a mis 4 ans quand même avant de se laisser convaincre par nos clients qui nous le réclamaient très fréquemment. Et ne pas écouter ses clients, c'est une des pires erreurs qu'on peut faire, mais c'est celle qu'on faisait. Parce qu'il y a un moment où tout entrepreneur, il se dit, il faut aussi que j'arrive à suivre mon instinct. Et quand est-ce que, tu vois, si tu te remets tout le temps en cause sur tout, ben, tu n'as plus non plus de ligne directrice. Et donc, pour nous, notre ligne directrice, c'était de se dire, on va prouver qu'on peut vendre des bijoux, donc une fois de plus, à un très bon rapport qualité-prix, mais quand même à des prix élevés, sur Internet.
C'est ce que disait Henry Ford, quoi. Si j'avais écouté mes clients, j'aurais ajouté 2 chevaux à mes carrières.
Et donc, je pense qu'on s'est un peu pris pour Henry Ford. et à un moment, il faut pas. Et donc, on a fini par écouter nos clients, mais on l'a fait à notre manière. Donc, on a ouvert des boutiques qui sont en réalité plus des showrooms, puisque les gens viennent essayer les bijoux sur place. Il y a très peu de stock. Ils les achètent sur place, mais sur tablette, sur notre site Internet. Mais en revanche, ils ne repartent pas avec. Alors, on a quelques pièces qui sont des pièces en stock pour les petites occasions, etc. Mais 90%, en fait, des bijoux, c'est des bijoux vraiment de démonstration. Et en fait, ça a été un appel d'air énorme en termes de croissance. Et là, quand on a ouvert à Lyon, à Lyon, ensuite, direct, tu vois, 200% de croissance.
On a quand même besoin d'essayer sur ce genre de business.
Ouais. Et puis, c'est un plaisir aussi. Surtout si on le fait à notre manière, donc pas avec tu vois, de la moquette rouge et une ambiance un peu stuffy. Enfin, pardon, en français, une ambiance un peu intimidante. Mais vraiment une ambiance légère avec une bande son Spotify, des dragibus, enfin comme on fait chez Gemio. Honnêtement, ça a fait une énorme différence, même ça a apporté en termes d'univers et d'expérience client. Et donc on continue à le faire. Après,
déploiement donc sur en
exactement,
région,
exactement, sur toutes les régions. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus on se rend compte que chaque région est différente. Tu vois, moi je vais assez souvent à Lyon et c'est une ville que j'aime beaucoup parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas. Normal Sup en fait c'était à Lyon. Et donc c'est d'ailleurs pour ça en partie qu'on est allé là-bas. Et en fait chaque région est vraiment différente et en fait à chaque fois tu dois t'implanter de manière différente. Déjà au niveau des localisations, en fait retail is detail, on le dit souvent, mais sincèrement c'est vraiment vrai. Et en plus, à chaque fois essayer de creuser son trou, créer sa réputation, c'est une nouvelle manière de le faire. Et donc, faire des partenariats locaux, connaître des gens sur place, générer du bouche à oreille sur place. À chaque fois il faut le faire localement et donc c'est hyper intéressant.
Et du coup, aujourd'hui, vous vendez des pièces qui vont de quel prix à quel prix?
Alors écoute, sans te dire de bêtises, je crois que les prix les plus accessibles sont autour de 150 euros. ou 100 euros pour... donc, on a une gamme qu'on appelle petite joaillerie, qui sont des bijoux plus accessibles pour des petites occasions, mais qui sont un peu plus mode en général. Et donc, c'est entre 150 et 600 euros, on va dire, cette gamme. Et ensuite, on a notre gamme vraiment joaillerie, qui est entre donc 600 et ça monte à 20-30 000 euros. À peu près.
La pièce la plus chère que t'es vendue ?
On a vendu 28 000 euros, je crois que c'est la plus chère, il me semble. Et en réalité, notre cœur de gamme, si tu veux, il est entre... notre vrai cœur de gamme... On vend beaucoup de pièces autour de 1 000 euros, mais notre cœur de gamme est entre 1 000 et 5 000. C'est vraiment ce qu'on vend le plus, en fait.
T'as une notification quand tu vends une pièce à 25 000 euros ou
pas ? Non, malheureusement pas. Bon, en général, j'ai le service client qui nous envoie un petit message genre « Youhou !»
D'accord. Fantastique. Écoute, c'est une super aventure. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu me racontais un peu vos points d'organisation avec ton mari. C'est quoi le réveil chez les léniaux? Enfin, je veux dire, quand tu te réveilles, tu t'essayes de pas toucher ton téléphone tout de suite, de
ouais. Vous
partez au boulot ensemble
Pas toujours, parce que j'ai très souvent des petits déjeuners. Ouais. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que déjà j'essaye de pas mal dormir. Je me suis rendu compte pendant des années que je dormais pas assez et qu'en fait moi j'ai plutôt besoin de pas mal dormir, donc j'essaie de dormir quand même 8 heures, tu vois. Ça, 8 heures, je suis bien. En dessous, je suis fatiguée et j'aime bien ne pas être fatiguée et avoir plus d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand je me réveille, je me lève en général à 7h30, en fait deux fois par semaine en semaine, et deux fois le week-end je fais de la course à pied, donc là je me lève un peu plus tôt à 6h30.
Donc 4 fois tu dois commencer à avoir un certain niveau, non ?
Écoute, non, la réalité c'est que non, mais ça m'amuse.
D'accord.
Non, mais tu vois,
j'apprécie l'honnêteté.
Je cours à 10. Non, mais je cours à 10 et demi, tu vois. Donc c'est ça reste quand même un niveau de
3 km.
Non, je cours 7-8 km en semaine et plutôt 12 le week-end. Et donc en fait là, je me lève un peu plus tôt, je me lève plutôt à 6h30.
OK.
Et ensuite, j'aime bien manger un bon petit déjeuner, donc c'est souvent du salé, des œufs, des trucs comme ça. Et après, en général, en fait, ce que je fais, c'est que moi, j'aime bien planifier ma journée le jour d'avant. Donc, le soir, avant de m'endormir, plutôt que le matin regarder compulsivement mon téléphone, j'organise un petit peu ma journée. Donc, je regarde mon agenda du lendemain. Je sais ce que je vais avoir un rendez-vous à tel endroit. Je sais du coup quelle fringue il faut que je prépare, parce que si j'ai un rendez-vous avec un VC ou avec un client ou avec un journaliste, ça va pas être la même chose que si je dois aller crapahuter dans mon atelier dans les Vosges, tu vois. Et donc, je prépare en fait mes vêtements même la veille au soir.
VC, un investisseur.
Oui, pardon, voilà. Une fois de
et
plus.
Et du coup, tu pars la veille au soir, très organisé. Tu te couches tôt aussi, du coup.
Je me couche vers 10h30, un truc comme ça, 10h30, 11h. Ouais. Et j'aime bien lire avant de m'endormir.
T'as ce...
Enfin, pas tous les soirs. Hein. D'accord.
Tu lis beaucoup, j'imagine, quand même.
Je lis pas mal. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu une grosse période chez Gémio, justement, où j'avais arrêté de lire. Et là, maintenant, je m'y suis beaucoup remis parce que je pense que j'ai eu une période, et je crois que ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs, où j'étais tellement le nez dans le guidon. Et en plus, comme on travaillait ensemble avec mon mari, c'était encore plus le cas, où vraiment, pour le coup, tout ce que je te dis maintenant, je le faisais pas du tout. Et j'ai eu un déclic à un moment où je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne soin de moi et de ma santé. Pour que ça dure, parce qu'en fait c'est un marathon et que ça fait 7 ans qu'on travaille et que j'allais pas pouvoir dormir 5 heures par nuit ou 4 heures par nuit toute ma vie, et en tout cas pas moi, c'est pas possible. Et donc avant c'est un peu ce que je faisais, et je travaillais tout le temps et voilà, et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrive à prendre des vacances de temps en temps, qu'il fallait que je dorme plus, que je fasse du sport, que je mange sainement, et qu'en fait ça contribue à ma productivité, tout simplement.
Alors je suis vachement passé par là. Mais par moment, je me demande si cette période est pas nécessaire. Je veux dire le moment.
Sinon, t'as pas envie de le faire. Ouais. T'as pas envie après de prendre soin de toi si tu t'es pas un peu maltraité.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, il y a aussi le moment où finalement, t'as besoin de bosser pour certaines boîtes 16 heures par jour.
Oui, voilà. Bien
alors,
sûr.
Certains diront ils réussissent extrêmement bien sans passer par là, mais il y a très peu de vérité. Donc ton orgade, ça a l'air assez quand même
relativement cadré. Oui, ouais. J'aime bien. Après, je suis pas psychorigide, hein. Il y a des jours où je sèche la course à pied, ça m'arrive, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, et j'aime bien créer un rythme en fait qui m'épanouisse, quoi.
T'as des outils spécifiques, des applis que tu utilises tout le temps sur ton ordi,
j'en ai plein. Tu veux dire plus au niveau de la productivité du travail?
Ouais.
Alors, j'ai un truc que j'adore et qui n'est pas vraiment un outil de travail, encore que c'est mon Kindle. Ouais. Donc je te disais, je lis et en fait je relis énormément depuis que je me suis acheté un Kindle. C'est bête parce qu'en fait, en tant que littéraire, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap. Donc le Kindle, c'est le livre un peu électronique pour les personnes qui connaissent pas d'Amazon. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, bon, déjà, tu peux l'emporter partout avec toi, ça prend très peu de place. Tu as tous tes livres avec toi, tu peux les télécharger tout le temps. Et surtout, il y a un outil qui est formidable sur Kindle. Et moi, c'est ça qui a vraiment changé ma vie, c'est que tu peux surligner.
Fantastique.
Et surligner et ensuite aller sur ton ordinateur et prendre tes notes. Et ça, pardon, ça a changé ma vie parce qu'en fait, pendant longtemps, moi, je me disais non, mais en fait, ça me dérange pas d'avoir des gros livres dans mon sac ou en vacances. C'était un peu un faux problème pour moi de dire que j'avais pas besoin d'avoir 15 livres pour partir en vacances, si tu veux.
C'est pareil, il y a un côté, tu t'y attachais en fait, un peu à ce côté papier, etc.
Et puis, je dois dire que je me rappelle plus quand même quand je lis un livre papier, vraiment du livre et des circonstances dans lesquelles je l'ai lu parce que il y a une texture, t'identifies visuellement. Ouais. Alors que le Kindle, comme c'est toujours la même chose, bah finalement tu te rappelles pas où tu l'as lu. Bon, c'est pas très grave, mais.
Il existe la version Fnac Kobo, je dis chez les Français. Bon, moi j'ai sur Kindle aussi, mais je partage totalement ce que tu dis.
Et ça, je dois dire que c'est bête parce qu'en fait beaucoup d'entrepreneurs ne considèrent pas que la lecture est un outil de productivité, mais j'ai appris tellement de choses, enfin je pense comme toi, en lisant, que et puis du coup en fait en travaillant, parce que lire c'est pas uniquement lire, c'est essayer d'en tirer des conclusions, l'appliquer à sa vie, et du coup il y a un travail de retraitement derrière qui est important. Moi du coup tu vois, on parlait tout à l'heure de ce que j'ai appris à faire à Normalsup, prendre des notes sur des livres, en fait c'est ce que j'ai appris à faire, et donc je le fais aujourd'hui. Et typiquement j'utilise deux outils, moi, pour à la fois ma gestion de tâches et puis et aussi typiquement prendre des notes. Pour prendre des notes et garder en fait tout ça, j'utilise beaucoup Evernote, comme beaucoup, parce que ça permet de bien classer. Enfin, je trouve que c'est un outil qui a plein d'avantages, qui permet de prendre des photos, de les mettre dedans. Enfin, il y a de la reconnaissance de texte, il y a plein, énormément de fonctionnalités qui sont intéressantes. Et j'utilise beaucoup Wunderlist, qui est pas exceptionnel au sens où c'est juste un peu une liste bête et méchante, mais qui a l'avantage en fait de me permettre de classer.
T'es en version payante sur les deux?
Sur Evernote oui, pas sur Wunderlist. Sur Evernote oui, clairement. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Un autre outil que j'utilise pas mal, c'est bête, mais ça m'aide beaucoup. C'est un truc qui s'appelle Momentum, que tu connais certainement, qui est un
économiseur d'écran. Ouais,
exactement. Chrome, j'aime bien parce que déjà, je trouve que les images sont super jolies.
Fantastique. Ouais.
En fait, à chaque fois que tu ouvres un onglet sur ton navigateur, ça va sur Chrome. Je crois que c'est uniquement sur Chrome, malheureusement. Tu vas avoir une très belle image qui te donne l'heure et qui te rappelle en fait ta tâche de la journée. Et moi, je me suis beaucoup forcée ces dernières années à essayer d'avoir deux ou trois tâches par jour, pas beaucoup plus, qui sont des tâches dures, et ne pas me noyer dans les détails de plein de petites choses opérationnelles. Donc j'ai ma to-do, si tu veux, avec des petites choses à régler, mais je sais que j'ai un ou deux sujets de fond à traiter, et ceux-là, je les note sur Momentum.
Et tu organises ta journée en fonction de ces tâches, c'est-à-dire c'est plutôt le matin, plutôt l'après-midi ou...
En général, je réfléchis à l'avance la façon dont je vais organiser ma journée. C'est-à-dire que c'est pas systématique que le matin je fais les travaux de fond et l'après-midi, je sais pas, les petites tâches un peu ménagères. Mais par contre, quand j'arrive au bureau, l'une des premières choses que je fais, c'est je récapitule justement les deux grandes tâches ou trois grandes tâches ou la grande tâche de fond que j'ai à faire et les petites choses. Et j'essaye de voir en fait à quel moment je vais le faire. Et typiquement, souvent le matin, c'est pas systématiquement le cas, mais il m'arrive de descendre mes mails, je prends une heure, je mets ma boîte mail d'ailleurs sur pause avec un autre outil que j'utilise beaucoup qui s'appelle Boomerang, que tu connais.
Non, je connais pas, mais ça c'est une super idée. Je suis
incroyable.
Je sais pas, j'ai un gros problème là-dessus de gestion de boîte
incroyable.
Mail.
Alors là, Boomerang, je le recommande, les yeux fermés. Parce que non seulement ça te permet de mettre ta boîte mail sur pause, donc ne pas recevoir de mail pendant une durée où tu es concentré, donc ce qui est quand même assez sympa, c'est pas invasif, et en plus tu vas avoir la possibilité de faire des relances automatiques, de faire remonter des mails si jamais tu sais que t'attendais une réponse que t'en as pas eu. Enfin, il y a énormément de petites choses qui permettent de faire gagner beaucoup beaucoup de temps, donc c'est un outil que j'utilise beaucoup. Et donc typiquement ce que je te disais, c'est que le matin assez souvent je prends une heure autour de 9-10 heures pour faire mes mails.
Je m'en rends compte parce qu'on a beaucoup parlé de Gemio, et une des raisons aussi pour lesquelles il est beaucoup trop tard. J'espère que tout le monde écoute ça encore, parce que si vous êtes encore là, une des raisons pour lesquelles je t'ai fait venir aussi, c'était pour parler de la crème et de ton podcast. On en a parlé en intro, je suis con, j'aurais dû pas en parler plus. Mais bon, je suis sûr que cet épisode sera écouté jusqu'au bout. Pardon, je t'ai coupé du coup sur les outils, mais
non, mais
j'ai
bon,
eu
voilà,
cette espèce...
c'est ceux-là majoritairement que je dirais que ceux-là, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus, et franchement,
Boomerang,
je les recommande.
À Boomerang,
franchement, ouais. C'est, je pense que c'est mon préféré en plus de tous.
Parce que sur cette gestion de tâches, moi j'ai cette tâche principale, j'arrive quand même en m'en mettant une ou deux ou trois à m'en zapper une dans la journée de temps en temps parce que je me fais rattraper par le management, les personnes. Ouais. Qui est-ce qui manage le plus chez vous ? Qu'est-ce qu'elle plus de...
Alors pendant une longue période c'était moi, j'ai un peu changé de rôle depuis on va dire janvier, d'ailleurs ce qui m'a donné plus de temps aussi pour faire le podcast. Avant c'était moi, j'avais un râteau beaucoup trop gros, et là maintenant je dirais que c'est Malek qui a le plus de personnes sous sa...
C'est le truc qui prend le plus de temps, hein, clairement.
Et alors, mais il est vraiment très talentueux pour ça, et je pense que du coup ça se passe très bien pour lui en tout cas. Moi c'était moi mon truc.
Crème de la crème, donc qui est un podcast on va dire frère, sœur, cousin de Génération Do It Yourself. On est sur les mêmes typologies de concept, je pense.
Oui, carrément.
C'est quelque chose que t'as créé il y a quelques mois, fin 2017.
Alors, je l'ai même créé plus tard que ça. Je l'ai créé en fin février 2018.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est très, très récent.
Okay.
Justement, parce que je me suis rendu compte à un moment donné que chez Gémio, comme je te disais tout à l'heure, mon métier à moi, maintenant, c'est plus d'avoir des idées et moins de manager, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps chez Gémio. Et que du coup, en fait, il fallait que j'arrive à en avoir des nouvelles idées et que toute seule, c'est pas si simple. Mmh. Et que la veille, tout ça, ça aide. Mais juste rencontrer des gens inspirants et passionnants, c'est le meilleur moyen d'avoir des idées. Et donc, moi, j'écoutais personnellement des podcast, parce que comme je fais beaucoup de courses à pied, il faut quand même s'occuper quand on court 4 fois par semaine.
C'est vrai.
Donc, et parfois des audiobooks aussi sur un site comme Audible. Mais c'est vrai que je suis un peu tombée dans le podcast, et donc je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas ? Je t'avoue qu'à l'époque, je connaissais pas Génération Do It Yourself, donc peut-être que j'aurais pas fait les choses exactement de la même manière. Mais en tout cas, je me suis dit que j'avais la chance d'avoir un réseau qui était pas si nul, et que surtout, en fait, il y avait plein de personnes que je connaissais, que je respectais, mais j'avais jamais été dans le détail avec elles et je leur avais jamais posé des questions profondes sur leur business, sur leur vie, sur comment ils avaient réussi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est juste une opportunité incroyable de m'enrichir, d'avoir des idées, de rencontrer des gens aussi que j'aurais jamais rencontrés. Mmh. Tu vois, comme nous, par exemple, on se rencontre aujourd'hui. Et donc, en fait, pour moi, c'était juste une porte d'entrée vers le monde des idées. Et c'est pour ça que je l'ai créé, très honnêtement. C'est pour ça aussi que c'est pas un podcast qui est directement rattaché à Gémio, parce que c'est lié, mais c'est pas exactement forcément lié à la joaillerie, tu vois. C'est plus entrepreneurial ou même sur le succès de façon générale. Parce que, comme tu as compris, pour moi, en fait, le succès, c'est pas uniquement juste réussir au niveau financier ou dans son entreprise. C'est aussi, moi, je t'ai dit, je suis passée par cette phase de personnellement vouloir juste être bien dans mes baskets et basket au sens même de la course à pied, tu vois, et être bien dans mon corps et tout. Et donc, j'ai par exemple invité déjà un médecin nutritionniste pour parler de ça. Donc, j'essaye de brasser assez large et de parler on va dire d'une manière ou d'une autre, du succès sous toutes ses formes et d'avoir des conseils un peu comme toi, très concrets. Je pense que par rapport à d'autres podcasts un peu comme le tien, ma force, c'est que je suis entrepreneur et que du coup, quand je pose des questions, souvent, je dis pas que je suis passée par là, mais j'ai une vision qui est un petit peu différente de quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, tout simplement.
Qui est journaliste ou qui...
Exactement. Et donc, je dirais, parce que quand je me suis lancée dans le podcasting ou que je me suis dit, tiens, je vais peut-être le faire, ce que je constatais, c'est qu'aux États-Unis, donc, il y a plein de podcasts assez incroyables avec des personnalités fortes, et qui justement, je trouvais à chaque fois poser des questions très justes. Et par contre, en France, franchement, donc, une fois de plus, je connaissais pas le tien, mais, j'en avais pas trouvé tant
c'est
que
ma
ça.
Faute, hein, si
tu vois.
Pas.
Exactement.
Ouais. Ouais, voilà. Et c'était, tu sais, c'était beaucoup de... Quand j'avais des amis ou des gens que je rencontrais qui me disaient, mais on a lancé un énorme projet digital, je suis con, j'ai pas pensé à Cosa Vostra. Ouais. Au début, je les détestais et je me disais, mais ouais, il est con.
Oui.
et en fait, je me suis très vite rendu compte, ben non, c'est pas lui, c'est moi en fait. S'il a pas pensé à moi,
ouais, c'est
ça. Et le podcast permet aussi d'avoir des gens qui pensent à toi plus fréquemment.
Exactement. Ce qui est rigolo, c'est que tu vois, dans le cadre du podcast, qui est très loin de Gémio dans ce que je raconte, parce que c'est souvent des histoires qui n'ont rien à voir avec la joaillerie, avec l'amour, avec les fiançailles, etc. Mais en fait, je pense que ça incarne un peu la marque, que ça donne aussi... nous, nos valeurs, c'est beaucoup la sincérité, la transparence, aussi le partage chez Gémio. Et par exemple, il y a plein de petits... On fait des petits cadeaux gratuits, on a des petites attentions pour nos clients, parce qu'en fait, justement, l'idée, c'était de créer de la bienveillance autour de la joaillerie, qui est un secteur plutôt intimidant. Et en fait, le podcast, c'est aussi un peu dans cet état d'esprit. Donc en fait, les gens le retrouvent. Et du coup, ça fait, je dirais pas une publicité... assez éloigné, mais tu vois, on a, depuis que j'ai lancé le podcast, de plus en plus de personnes qui nous disent être devenu client chez Gémio via le podcast.
Bien sûr, mais c'est une question d'état d'esprit, hein, pas mal comprendre une typologie de personnalité, de bienveillance, de valeur finalement, ça. Je pense.
Super. J'aime assez l'idée excuse-moi.
Je t'en prie.
Non, mais je disais juste, j'aime assez l'idée, en fait, dans un monde où on est quand même spammé en permanence par de la publicité, en permanence quand les gens te disent quelque chose, c'est payant. Enfin, tout est, j'aime assez l'idée de donner quelque chose un peu gratuitement, juste parce que, moi, ça me fait plaisir, comme toi, j'imagine. Mmh. Et du coup, voilà, c'est une idée que j'aime bien.
Donc, Crème de la Crème, le podcast que vous trouvez, un peu partout, sur toutes les plateformes de podcast.
Surtout sur iTunes.
iTunes, voilà. Qu'il faut, tout comme Génération Do It Yourself. Si vous l'écoutez, notez 5 étoiles.
Exactement.
Et partagez autour de vous. Allez-y, c'est gratuit. Vous trouverez Gémio donc sur gemmyo.com.
Exactement.
Et puis sur tous les réseaux sociaux, j'imagine. Pauline, on te retrouve où, toi, sur Facebook?
Alors, Insta, Facebook, non, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore passé le cap de supprimer mes photos compromettantes. Et donc,
Tu peux les mettre en privé.
Je sais, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc, aujourd'hui, c'est essentiellement sur Twitter et sur LinkedIn et Instagram. Okay. Et donc, c'est en général quelque chose comme Pelaigneau, P-L-A-I-G-N-E-A-U.
D'accord.
Donc, voilà, c'est vraiment les trois réseaux sur lesquels je parle le plus.
Très bien. Je mettrai les liens sur évidemment les notes comme à chaque épisode. Je te remercie.
J'ai
passé un super moment.
Oui.
Et puis, je te dis à bientôt. Pauline Laigneau de Gémio.
Peut-être bientôt sur Crème de la Crème à ton tour.
Quand tu veux. À très bientôt, Pauline.
À bientôt.
Merci pour tout.
Merci, Mathieu.
Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.